Pour commencer, je vous propose, je vais vous demander, on va faire un espèce de petit sondage comme ça, pour se rendre compte un petit peu de la composition de cette assemblée. Combien de personnes parmi vous ont déjà, ne serait-ce que, entendu parler de SSA, de Sécurité sociale de l'alimentation? Donc on a une bonne partie de l'assemblée. Combien de personnes se sentiraient à l'aise pour en parler et expliquer ce que c'est? Ok. Et ben, du coup, ça permet aussi de voir que, bah, effectivement, tout l'intérêt de cette table ronde, qui est de donner envie, d'une part, d'apprendre, de montrer, d'expliciter ce que c'est cette proposition politique, qui a différents pendant, évidemment, révolutionnaire ou pas, on va dire. De donner envie potentiellement de faire se rendre compte que c'est un espace de lutte et d'organisation qui va travailler autant sur le fond que sur la forme, c'est-à-dire sur l'activité, quoi, sur qu'est-ce qu'on fait concrètement ici et maintenant, aujourd'hui, et bah, d'essayer de faire en sorte que ça vous donne envie de rejoindre ce mouvement. Donc, bah, je vais commencer par simplement lire l'intitulé. Donc, l'intitulé de ce débat est celui-ci: La sécurité sociale de l'alimentation. Projet de transformation démocratique et populaire des systèmes alimentaires a pris une place médiatique importante ces derniers mois, laissant craindre récupération et institutionnalisation paternaliste. Quels espoirs portent et incarnent les expérimentations locales de SSA? Comment, dans un contexte politique autoritariste, donner du crédit à une proposition politique révolutionnaire à l'échelle macroéconomique, c'est-à-dire au niveau de tout le pays? Mais pour répondre à cette question, d'abord, qu'est-ce que c'est la SSA? Qu'est-ce que c'est la sécurité sociale de l'alimentation? On va revenir rapidement. Je vous propose de faire un petit résumé historique de ce que c'est la sécurité sociale de l'alimentation, d'où elle vient, c'est-à-dire de la sécurité sociale de base. En quoi la sécurité sociale, c'est un projet révolutionnaire et pas étatiste, contrairement à ce qu'on nous a mis dans le crâne. Et ensuite, on va présenter les groupes locaux. Du coup, des groupes locaux, c'est un peu dans toute la France, en fait, il y a des expérimentations vers la SSA qui se mettent en place. Et on a ici deux groupes, un de Diolfi et un de Bourgny-Isère, qui vont se présenter juste après. Donc, la SSA, elle tire ses racines de la sécurité sociale. La sécurité sociale tire elle-même ses origines de la longue histoire des systèmes de santé en France depuis le 19e siècle. Au début, les mutuelles, donc au 19e siècle, qui étaient interdites, qui ont donné lieu à la mise en place et suite à des luttes acharnées aux syndicats. Petit laïus, enfin, petit propos juste sur les mutuelles, le principe de base, qui était d'ailleurs un principe au début plus anarchiste que communiste, c'est on fait une caisse. Les travailleurs et les travailleuses cotisent entre elles dans une caisse qui va permettre, quand un ou une camarade est malade, blessé ou quoi, de subvenir aux besoins de sa famille. C'est le principe de base. Ça a été interdit par Napoléon, qui finalement, après coup, en voyant tous ces petits gens à la guerre, s'est dit peut-être que ça leur botterait plus d'aller à la guerre si on leur proposait un système de soins pas trop déconnant. Donc, on autorise les mutuelles, mais des mutuelles qui sont au final quand même chapeautées par le patronat et par les institutions politiques locales. Celle-ci, c'est pour celles auxquelles on va donner du pognon. Et puis les autres, qui sont quand même autorisées, auxquelles on ne va pas du tout donner d'argent, elles auront plein de contraintes matérielles. On va pas revenir sur tout ça. Ça nous conduit à la fin du 19e siècle. Après des luttes, encore une fois, vraiment très rudes avec des morts et tout, qui ont donné lieu au 1er mai, à la création du 1er mai, à l'autorisation des syndicats. Et je vais faire un bond direct au sortir de la Seconde Guerre mondiale, parce que là, on commence à se rapprocher très franchement de notre histoire contemporaine. On a déjà eu, du coup, avant la Seconde Guerre mondiale, la mise en place des bourses du travail, qui sont du coup des espaces, des maisons qui ont été construites par et pour les travailleurs et les travailleuses pour l'organisation des luttes sociales. Et au sortir de la guerre, il se trouve que le patronat, qui avait largement collaboré avec les nazis, avait un peu perdu du crédit aux yeux de la population, contrairement aux communistes, qui, eux, étaient en plus, au sortir de la guerre, encore armés, pour la plupart, du coup, avec un blason plutôt doré, étant donné qu'ils avaient quand même versé leur sang pour cette libération. Donc, il y avait quand même un rapport de force entre les communistes et l'ensemble de la résistance face à De Gaulle. De Gaulle, qui n'est pas connu pour son adoration du drapeau rouge. Et il se trouve que dans les négociations, il y a un document qui a été posé sur la table qui s'appelle Les Jours Heureux. Et Les Jours Heureux, c'est la proposition du système social qu'on a en France encore aujourd'hui et qui détricote depuis son existence. Parce que pendant la guerre, il y a des gars, donc c'était que des gars en l'occurrence, qui ont réfléchi à la mise en place d'un système social et politique, la mise en place du service public, etc., etc. Et donc, on en arrive au point qui nous intéresse. En 1946, on a un ministre du Travail communiste, qui est en l'occurrence un travailleur qui travaillait, Ambroise Croizat, il s'appelait, qui a été ministre du Travail pendant genre 6 mois. Et sur ces 6 mois-là, il a dit « Ok, la CGT, on fonce, voilà les clés, mettez en place les systèmes de sécurité sociale. » Donc, quand je dis les clés, ça veut dire il y a du bâti, il y a des moyens économiques qui sont mis sur la table par l'État. Et en fait, à partir de ce moment-là, de 1946 jusqu'à 1967, là, on a un modèle économique et, d'organisation de la sécurité qu'on peut aussi appeler la sociale. On y reviendra probablement sur les débats avec le Rojava et le Chiapas, puisque la sociale est l'ennemi juré de l'État social, l'État social n'étant pas du tout notre ami, on y reviendra. Et donc, en 1946, on met du jour au lendemain en place la sécurité sociale, ce qui fait que tout le monde a accès à des soins gratos. Quelques années plus tard, juste avec la cotisation, quand je dis juste avec la cotisation, ça veut dire sans emprunt bancaire. C'est-à-dire qu'on n'a pas du tout besoin de faire appel aux banques pour mettre en place un système de santé qui non seulement coûte rien, mais en plus rapporte du pognon, où tout le monde peut avoir du coup une retraite. Le chômage, il arrive un petit peu plus tard dans l'histoire. Et puis du coup, un système de santé, quoi. Et aussi des aides, les allocations familiales, etc. Et surtout, la création des CHU, la création des hôpitaux publics. Donc tout ça, en fait, ça s'est fait dans un contexte où les sous des cotisations sociales, celles les mêmes qu'on paye encore aujourd'hui, ont permis en quelques années de créer toutes ces choses parce que les caisses de cotisation étaient organisées et gérées par et pour les travailleurs et les travailleuses. C'est-à-dire que ni l'État, ni le patronat n'avait son mot à dire dans l'organisation de la gestion de notre pognon. C'est nos thunes. En fait, quand on contribue aux caisses de cotisation, c'est-à-dire ce que vous avez sur vos contrats qui s'appelle le brut, c'est du salaire. C'est du salaire sur lequel vous cotisez, c'est votre argent. Donc, quand le patronat et les politiciens décident à votre place, à notre place, de ce qu'ils font de cet argent, c'est du vol. Voilà. Et c'est ce qui a été mis en place par De Gaulle en 67, avec notamment une ordonnance qui fait passer le pouvoir de prise de décision au sein des caisses de cotisation de 75% pour les salariés du service public et 25% pour le patronat. Ce qui était déjà pas très cohérent en termes démographiques, puisque du coup, il n'y a pas 25% de patrons par rapport au nombre de travailleurs et de travailleuses. Et il fait passer ce chiffre de 75 à 50. Ce qui veut dire que quand il y a des décisions à prendre, ben en fait, d'un coup, du jour au lendemain, ils appellent ça le paritarisme, du jour au lendemain, le patronat n'a plus qu'un syndicat à se mettre dans la poche, un syndicat de salariés. Il n'a plus que ça à se mettre dans la poche pour pouvoir faire passer ce qu'il veut. Voilà. Donc ça, c'est le contexte global. Le projet politique de sécurité sociale de l'alimentation, il se base... Il prend exemple sur cette période-là. Donc après 67 et jusqu'à aujourd'hui, il y a un détricotage complet de l'organisation des sous qui sont les nôtres, de manière à rapprocher la prise en charge de la santé de l'État. Donc l'État social, c'est cet espace paternaliste. on se raccroche avec l'intitulé de ce débat. L'État social, c'est cette organisation, ce mode de pensée paternaliste qui, très propre aux social-démocrates, aux socialistes, quoi, de dire, nous, on sait ce qui est bon pour vous, vous en faites pas, on se charge de tout. Voilà. Et qui, en fait, du coup, nous prive de nos capacités d'autonomie, de prise en charge, d'autogestion, en fait, de compréhension, ne serait-ce que ça, des tenants et des aboutissements, et des aboutissants de la sécurité sociale, en l'occurrence. Mais en fait, c'est vrai pour tout autre sujet politique. C'est d'ailleurs pour ça que ce genre d'endroit pose tant de problèmes, c'est parce qu'en fait, on montre qu'on peut se passer d'eux. Ça plaît pas bien. Est-ce que vous avez des choses à rajouter sur ce que je viens de dire? Parce que je vais passer à la SSA maintenant. Est-ce que vous avez des questions sur tout ce que je viens de dire ou est-ce que j'enchaîne?
Juste, t'as pas mentionné le Conseil national de la résistance, d'où vient le programme des jours heureux, et on est ici dans le Vercors au Pakistan, et bon, ça prend tout son temps, sens.
Merci. Et donc la SSA, il y a un collectif qui est né en 2018, qui réunit du coup depuis cette année-là, depuis 2018, un grand nombre d'organisations. Aujourd'hui, il doit y avoir 60-70 orgas qui font partie de ce collectif. C'est un collectif, je dis interrégional, pour pas dire national, qui réunit des orgas comme la CONF, Réseau Salariat, dont je fais partie. C'est vrai que je ne vais pas présenter Réseau Salariat non plus après, mais bon, on y reviendra. Ou Ingénieurs sans frontières, Démocratie alimentaire. Enfin, voilà, au début, c'était que des orgas nationales qu'on planchait sur un projet sur quelques années, quoi, en disant, bah, il y a un truc à faire avec la cotisation, il y a un truc à faire sur l'alimentation, il y a un truc à faire sur les conditions de travail. Dans toutes les filières de l'alimentation, est-ce qu'on ne pourrait pas s'inspirer de ce qu'on peut appeler le déjà-là de la sécurité sociale pour faire une proposition de transformation des systèmes alimentaires? Transformation qui aura plusieurs buts. Je vais revenir un petit peu là-dessus. En gros, la sécurité sociale de l'alimentation, elle s'appuie sur trois piliers fondamentaux que sont l'universalité, ça veut dire tout le monde y a droit, la cotisation, donc la capacité de prélever sur un salaire une partie de la valeur ajoutée. Donc, la valeur ajoutée, ça veut dire quand il y a un travail qui est fait, on ajoute de la valeur. Ça, c'est notre brut, c'est le salaire brut, c'est de la valeur ajoutée. Enfin, notre salaire, d'ailleurs, est de la valeur ajoutée, puisque sans notre travail, il n'y a pas de valeur ajoutée. Donc, il n'y a pas de travailleurs ou de travailleuses qui coûtent cher. Ça, c'est de l'arnaque. C'est du vol. C'est un retournement de situation complet qui contribue à nous soumettre dans le travail capitaliste. Donc, je disais l'universalité, la cotisation et le conventionnement. Le conventionnement, c'est la capacité, c'est ce qui s'est passé aussi d'ailleurs dans les systèmes de santé. C'est un cadre, un contexte qui va permettre de dire avec tel médecin, enfin d'ailleurs c'est pas tel ou tel médecin, parce que disons qu'aujourd'hui il y a différentes formes de conventionnement dans la médecine, mais en tout cas de dire les médecins conventionnés seront ceux qui travailleront avec ces principes-là, quoi. Donc il y a eu un cadre de poser tout ça. Et donc avec la SSA, c'est le même principe. C'est de dire, on va poser un cadre d'organisation collective, on va en décider. En lien évidemment avec les travailleurs et les travailleuses, mais du coup tout le monde, toutes les personnes qui veulent s'investir, par exemple dans une caisse de cotisation, mais ce sera pas forcément le cas partout, on va décider de qu'est-ce qui va permettre de rentrer dans un cadre où on va se réapproprier l'organisation des systèmes alimentaires. L'organisation des systèmes alimentaires, donc toutes les filières, ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire déjà la production, c'est pas juste faire pousser des légumes ou l'élevage ou tout ça, quoi. La production, c'est en fait à partir du moment où il y a quelque chose qui est fait, c'est de la production. Le service, c'est de la production. Enfin, je veux dire, de service dans un restaurant, par exemple, c'est de la production. Peut-être pour vous donner une idée aussi, c'est la même chose dans un hôpital public. On parle de production de santé dans un hôpital public. Voilà, il y a quelque chose qui est fait. Voilà, ça donne de la valeur, quoi, à la société dans laquelle on vit. Elle n'est pas forcément économique, mais ça, peut-être, c'est un autre sujet. On verra ça plus tard. Et je me suis fait un croche-patte tout seul, je ne sais plus où j'en suis. Oui, ben non, aussi, je disais, donc les trois piliers. Voilà, ça, c'est les trois choses essentielles à partir desquelles il y a plein de façons de penser différentes, de penser la mise en place de la SSA. Une chose qui est certaine, je crois que ça, c'est quelque chose qui est partagé par tout le monde, c'est qu'elle ne peut pas être autre chose que démocratique. Démocratique, ça ne veut pas dire représentative, justement. Ça veut dire qu'on a la main sur l'organisation et on a le pouvoir de décider collectivement. Et surtout, elle doit s'organiser localement, partout. Qu'est-ce qui s'est passé en 1946 quand le ministre du Travail, Broizat, a filé les clés à la CEGET? Ça a été de dire installer des caisses partout, organiser les cotisations vous-même partout. Par exemple, à Lyon, ça n'a pas été la CEGET qui l'a fait, ça a été vraiment une organisation complètement auto-organisée et populaire. Il y a eu plusieurs espaces comme ça, mais c'était Lyon où c'était principalement. Sinon, globalement, c'était quand même la CEGET. Hein. Et donc, bah, pour la SSA, c'est la même chose. Si ce truc-là s'implante pas partout, bah, ça va s'institutionnaliser parce qu'il y a des spécialistes qui ont les thunes pour pouvoir faire de la politique, qui vont nous dire c'est quoi qui est bien la SSA, et on va perdre la main. Alors que si on est déjà organisé localement un petit peu partout, bah, ce sera quand même plus compliqué derrière de nous voler ce qu'on a fait parce que bah, politiquement, ça va être. Bah, en fait, on risque de pas trop se laisser faire quoi, si on est déjà un petit peu sur le sujet. Je pense que j'ai assez parlé là. Je vous ai demandé de m'arrêter. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce qu'il y a des choses qui sont pas claires encore? Enfin, il y a plein de choses à dire. Hein, donc, ouais, vous allez réexpliquer avec vos mots après, vient de dire Clément. Et ben, du coup, je vous propose de faire une très courte présentation de ce que c'est Réseau Salarié et ensuite de passer le micro. Moi, j'essaierai d'être le moins possible de prendre le micro par la suite, juste du coup de relancer les débats, les questions, les choses comme ça. Donc Réseau Salariat, c'est, comme je le disais tout à l'heure, c'est une asso d'Éduc'Pop qui s'appuie sur la proposition d'un vieux monsieur qui s'appelle Bernard Friot sur le salaire à vie. Et le salaire à vie, c'est une proposition du coup de s'appuyer sur le déjà-là communiste de la sécurité sociale et notamment des services publics, et, enfin en fait du fonctionnariat, en imaginant qu'à partir de 18 piges, de 18 ans, tout le monde pourrait avoir accès, enfin pourrait avoir un salaire du fait d'être, par définition même, travailleur et travailleuse. C'est-à-dire, pour donner un exemple, qu'est-ce que c'est le travail, pour reconsidérer la question du travail, qui n'est pas seulement cet objet de torture à trois pieux, mais qui est aussi, du coup, ce qui nous permet de nous organiser, de vivre ensemble. Le travail, c'est par exemple. Je vais chercher ma nièce à l'école. Bah, en fait, c'est une plus-value dans la société dans laquelle on est. Donc, sans même parler d'économie, parce que je ne veux pas être payé pour ça. Mais c'est quand même un travail, en fait. C'est quand même nécessaire de le faire. Je suis très content de le faire, par ailleurs. Ce n'est pas du tout une contrainte pour moi. Mais ce n'est pas compté comme quelque chose apportant de la valeur à la société dans laquelle on est. Pourtant, c'est absolument indispensable. C'est nécessaire. On ne va pas la laisser se démerder. Elle a 3 ans. Enfin, vous voyez. Bref. Si, pour donner un autre exemple, je suis serveur dans un café, un restaurant, enfin dans un café juste, je vais servir un verre à des gens. Je suis payé pour ça, c'est du travail. J'invite des gens à la maison chez moi. Je leur sers un verre. C'est du travail ou pas? Vous voyez ce que je veux dire? Moi, j'aime bien cet exemple. Bref. Et donc, on s'appuie sur la proposition de cotisation en disant, en fait, la cotisation, elle permet de ne pas s'endetter. Elle permet de réorganiser le travail, elle permet de ne pas se soumettre à l'emploi du travail capitaliste. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a cette capacité-là de réorganisation du salaire à vie, bah, en fait, on n'est plus obligé de faire des petits jobs de merde. Donc ces petits jobs de merde, ils n'existent juste plus, parce qu'en fait, on va pouvoir, à partir de cette chose-là, reconstruire complètement notre manière d'aborder le travail. Voilà. Et du coup, pour faire le lien avec la SSA, parce que Réseau Salarié est une des assos qui a créé qui a participé à la création du collectif pour la sécurité sociale de l'alimentation, nous, on parle de salaire à vie paysan, de salaire paysan, quoi. Pourquoi? Parce que, bah, en fait, quand tu es paysan ou paysanne, tu es à la MSA, du coup, c'est la sécu des paysans et des paysannes, qui est du coup une caisse qui est isolée, du coup, qui a beaucoup moins de moyens. C'est tout l'intérêt de la division des caisses aujourd'hui par secteur. D'ailleurs, j'ai oublié de dire ça tout à l'heure. Le fait qu'il y ait différentes branches dans la Sécu, qui est le chômage, la retraite, la santé, la famille, etc. Ça, c'est pareil. C'est une manière de réorganiser la Sécu qui est un vol. Avant, c'était tout unifié. Et du coup, tout s'équilibrait vachement mieux. Il y avait beaucoup plus de pognon déjà en soi, quoi. Et là, le fait de le diviser, bah, ça permet de fragiliser en fait l'organisation de la Sécu. Parce que du coup, chaque branche va être bah, toute seule avec sa merde, en gros, quoi. On ne va pas pouvoir récupérer chez les autres. Bref, il y a plein de choses à dire encore sur tous les vols. Mais bon. Ah, il y a un excellent bouquin qui est dans la librairie, qui est là, La bataille de la Sécu. Franchement, mais genre, pépite, grosse claque, de Nicolas Da Silva. C'est chambé comme bouquin. Je vous invite vraiment à lire. C'est un peu un pavé, mais voilà. Je passe enfin le micro. Hélène.
Alors, Hélène, oui. Donc, je représente, entre guillemets, aujourd'hui plutôt l'expérimentation, la caisse locale SSA qu'on appelle Bourg-Isère. Je ne sais pas si ça parle à tout le monde, c'est le territoire royan qui regroupe deux départements, la Drôme et l'Isère. Et qui va disons, du Royan jusqu'au bec de l'Échaillon, quasiment, puisque sur le territoire du SMVIC, c'est un territoire énorme. Donc voilà. Donc, on va vous parler un peu plus précisément. Voilà. Donc, je suis là aussi parce que je suis administratrice et bénévole dans une association qui est un chantier d'insertion qui s'appelle Terre aux Locaux, qui est à Notre-Dame-de-Lauziers, juste au-dessus de Vinay, pour situer si vous ne repérez pas bien. Donc, c'est un chantier d'insertion qui a été immédiatement. En fait, pardon, du maraîchage bio et de la boulangerie bio. Chantier d'insertion qui accueille 2 tiers de réfugiés et 1 tiers de personnes du territoire. Et qui a été tout de suite partie prenante dans l'expérimentation de la SSA, puisqu'on est un des points conventionnés, entre autres. Si vous avez des questions sur Terre aux Locaux, je pourrais être un peu plus précise. Mais disons que rapidement, bon, on fait depuis 3 ans un marché de 3 prix. On a des paniers, des abonnements paniers, et dont quasiment plus de la moitié de paniers solidaires. Voilà, donc impliqué de fait et très naturellement dans l'expérimentation, dans le collectif SSA Bourg-Isère, que Clément va vous présenter peut-être un peu plus précisément.
Bonjour tout le monde. C'est pas facile à prendre la digestion. Du coup, j'ai essayé de vous présenter peut-être un peu plus avec nos mots, dire aussi que on n'est pas porte-parole du collectif, hein, on parle en nom, enfin, en tout cas ça n'engage que nous. On a d'autres camarades, Lionel et Stéphane, qui sont ici, à droite, si vous voulez aussi continuer à discuter avec nous. Après, et moi à la rigueur, je représente plutôt une autre association, le Courbouillon, sur le territoire à la base, qui était un projet supermarché coopératif et qui mène pas mal d'actions autour de glanage, pareil sur les deux territoires. C'est un projet de recherche sur la démocratie alimentaire, alors qui est un vaste mot ici, qui pour nous vise plutôt à redonner un pouvoir de décision aux travailleurs et travailleuses et ne pas le prendre sous l'angle de la consommation seulement. Et on porte divers projets un peu de solidarité alimentaire, agricole aussi, dont la caisse, dont l'asso est porteuse plutôt administrativement, quoi, tout en essayant de mener une réflexion politique aussi. Et je pense qu'on va essayer de vous parler de ça. Et du coup, le collectif Bourg-Isère, il a à peu près 3 ans. À la base, c'était essentiellement des rencontres. D'ailleurs, ça démarre quand même assez souvent, comme ça, des rencontres plutôt publiques, politiques. Et à l'initiative, hein, ça a été amené par un collectif de paysans et de paysannes. En gros, c'était la Confédération paysanne essentiellement et le Café Paysan. Donc, il y a déjà des réseaux d'entraide et d'autogestion sur le territoire. Du coup, nous, on s'est un peu inscrit là-dedans. À la base, c'était, encore une fois, c'est des individus, des résidents du territoire, hein, qui se sont réunis. Ce n'est pas vraiment des organisations, des associations et encore moins des collectivités qui ont essayé de mettre leur nez là-dedans en essayant de dire nous, il nous faut ça comme un label. Donc, ça venait plutôt, voilà, de la base et plutôt à gauche, quoi. Donc, ça a 2 ans, 2 ans et demi, pas mal de rencontres. Et du coup, il y a un projet politique qui est né et plus concrètement, du coup, une caisse. Et comme tu l'as dit, Jay, ce n'est pas toujours des caisses, hein. Nous, on a aussi un réseau de marché à triple, enfin, à plusieurs tarifications. Ça peut aussi très bien être ça. Ou du glanage. Mais là, il y avait l'idée quand même d'avoir des personnes qui cotisent. Et c'est uniquement parce qu'elles cotisent qu'elles ont un pouvoir de décision, qu'elles sont souveraines en tout cas sur les grandes décisions à prendre. Et qu'est-ce qu'on fait du coup de ces. De ce budget-là, en l'occurrence, qui est la somme de toutes les cotisations. Nous, on a 43 foyers. Alors, du coup, il y a. Et effectivement, derrière, à l'occasion de l'anniversaire de la caisse qui a fêté ses 6 mois, on a fait une petite expo pour essayer de tirer le bilan de ce qui a été fait. Et du coup, dedans, donc, il y a 43 foyers donc, qui cotisent à hauteur de leurs revenus. On ne vérifie pas, hein, c'est sur bonne foi. Et il y a un comité citoyen qui est composé, donc qui est plutôt une vingtaine de personnes, et qui du coup se rencontrent régulièrement, suit des formations. Là, pour le coup, c'est de l'autogestion et de l'auto-formation, donc sont décidées à la fois des formations sur les enjeux agricoles qui sont données par des agris du territoire, ou sur les injustices et inégalités politiques face à l'alimentation, ou autour de la gouvernance, à tous ces trucs. Pour essayer de se donner un mandat et de décider en fait de tout ce qui régit par la caisse, quoi. Donc la caisse, elle a 6 mois, l'allocation est de 100 euros. Ça, je crois que tu l'as un peu dit, on va pas revenir sur les détails techniques. Non, patron, tu l'as pas dit. Ouais. Du coup, c'est pas un bon alimentaire, c'est pas une nouvelle politique sociale qu'on met en place, c'est vraiment une caisse de solidarité où du coup les gens cotisent. Ça fait un pot commun et ce pot commun, du coup, il est reversé sous la forme d'allocations qui vont de 50 à 100 euros. Du coup, ça, on les dépense dans des lieux qui sont conventionnés, comme c'est le cas du coup de la médecine conventionnelle, enfin conventionnée, médecin conventionné. Et du coup, ce comité citoyen a décidé, selon des critères qu'ils ont eux-mêmes élaborés, c'est là qu'il y a quand même de la démocratie, des points de vente. Et nous, il y en a une vingtaine. Alors pareil, aujourd'hui, c'est essentiellement des marchés sur des fermes. Il y a aussi un magasin de producteurs. Un groupement d'achat, enfin voilà, c'est à peu près ça aujourd'hui, mais on pourra en discuter après, hein. C'est juste où on va, quoi. Est-ce que l'objectif, c'est de rendre accessible l'alimentation paysanne bio, ou est-ce qu'au contraire, il faut essayer d'aller discuter ou mettre des rapports de force à la grande distrib, parce qu'on veut avoir les salariés pour qu'ils puissent reprendre leur usine, quoi. Bon, je tease un peu, mais c'est des stratégies qui ont vraiment absolument rien à voir, et nous, on les discute un petit peu dans la caisse. Je pense que je peux m'arrêter là pour le moment.
Bonjour, moi je m'appelle Émilie et je viens plus du sud, moins des montagnes. Je viens ici pour représenter le collectif vers une sécurité sociale de l'alimentation à Dieulfi et alentour. Et le mot alentour est important parce qu'en fait, on parle souvent de la caisse de Dieulfi. En fait, c'est tout un territoire qui s'est engagé là-dedans. On est à peu près une vingtaine de communes. Enfin, c'est un territoire qui regroupe à peu près une vingtaine de communes, dont Dieulfi est la plus grande commune et un peu au centre. Mais on est plus que ça. Je suis toute seule là sur les chaises, mais je suis ici avec Lucie qui s'occupe de filmer puisqu'elle réalise un documentaire sur notre initiative. Donc, notre initiative est apparue sur le territoire à partir de 2021. C'est à la suite des avant-dernières élections municipales maintenant, où à Dieulfi, il y avait une liste plutôt de démocratie plutôt participative. Et au sein de cette liste, il y avait Camille Perrin, qui est donc qui était nouvellement élue et qui avait envie de s'intéresser à l'alimentation. En même temps, il y avait un étudiant en géographie et économie, Noé Guiraud, qui faisait un travail sur la résilience alimentaire sur le territoire. Et encore en même temps, il y avait un maraîcher qui s'installait sur des terres communales, Mathieu Yon, et qui avait envie que sa production bio soit accessible au plus grand nombre. parce que j'aime bien le citer ce qu'il dit, c'est qu'il n'avait pas envie d'être un paysan pauvre qui vend aux riches, mais voilà, il avait envie de gagner sa vie, d'avoir des revenus dignes pour nourrir le plus de monde possible. Donc, c'est dans ce cadre-là qu'ils sont intéressés à la sécurité sociale de l'alimentation et qu'ils ont initié un collectif citoyen qui a pris de l'ampleur, qui se réunissait un dimanche matin par mois sous forme d'une assemblée citoyenne où il y avait parfois jusqu'à plus de 50 personnes. Et donc, petit à petit, ce collectif a réfléchi. Il y a eu un premier marché aux trois prix qui est connu sous le nom du marché du lavoir, qui était situé près des quartiers où sont situés les HLM à Dieulefi. Donc, c'était un marché où Mathieu vendait sa production. Il y a eu sur ce marché jusqu'à 8 producteurs, productrices qui vendaient. Bon, bah, il y avait du pain, il y avait des œufs, il y avait des fruits et des légumes. Des fromages également. Et donc, il y avait trois prix. Il y avait le prix juste fixé par le producteur ou la productrice, un prix à 65% pour permettre que ces produits-là soient accessibles aux personnes les plus précarisées, et un prix à 125% qui était appelé le prix solidaire. Donc, il y avait déjà un prémisse de caisse parce que cet argent en plus généré par les personnes qui payaient au prix solidaire, ça crée une caisse de solidarité où était pris quand il y avait besoin par rapport au prix accessible, les prix à 65%. Il y a eu ensuite un autre point de vente au marché de Pont-de-Barré. Donc, il y a eu un autre maraîcher qui a voulu mettre en place les trois prix sur ce marché et les producteurs, productrices de ce marché ont suivi. Il y a eu jusqu'à 8 stands aux trois prix à Pont-de-Barré et il y a aussi un fournil, donc une boulangerie productrice et point de vente fixe, le fournil des Comètes à Poët-Laval qui s'est mis aussi aux trois prix. Donc, on avait une caisse mutualisée sur trois points de vente, trois temps. Et ça a fonctionné pendant un certain temps. C'était très chronophage parce qu'on avait à construire cette démocratie alimentaire, cette réflexion citoyenne et en même temps à gérer l'équilibre de cette caisse. Donc, on a engagé un premier salarié. On s'est mieux organisé parce que quand on embauche un salarié, il faut pouvoir l'accompagner parce que tout de suite, on rentre dans un opérationnel vachement plus concret. Et puis, dès le départ, en fait, il y avait l'idée qu'on n'allait pas rester aux trois prix. Le trois prix, c'était pour lancer une première expérimentation. L'idée, c'était vraiment de passer sur une caisse un peu plus concrète avec une cotisation volontaire, une allocation et donc un conventionnement. Donc, il nous a fallu engager des salariés, donc demander une subvention. On a reçu la subvention, comme de nombreux projets SSA, par la Fondation Carasso, qui est une fondation qui a beaucoup financé les expérimentations SSA. C'est une fondation qui nous a posé problème parce que c'est quand même... Elle est liée à l'agro-industrie, c'est l'héritière de Danone qui a mis une partie de son argent au bénéfice d'associations. Bon, c'est pas gratuit non plus, en fait. Bon, c'est tout le problème des fondations. Mais au final, ça nous a permis d'embaucher jusqu'à 3 salariés. Donc, on a à peu près un équivalent temps plein et demi. Ça nous a permis de monter en opérationnel. Donc, on a pu embaucher notamment un gestionnaire de caisse qui a travaillé avec des développeurs en logiciel libre qui s'appelle Loca Valuto pour développer une plateforme technique. Parce qu'en fait, notre caisse, elle est numérisée. On a une application sur notre téléphone pour pouvoir payer directement les producteurs, productrices ou les points de vente. Au jour d'aujourd'hui, on a un peu plus de 150 foyers cotisants, ce qui correspond à peu près à un peu plus de 300 personnes sur le territoire. Et on a un peu moins de 40 points de vente. Donc, on a beaucoup de producteurs, productrices en vente directe sur les marchés ou à la ferme. Mais on a aussi des magasins, des boutiques. Et ce qui est conventionné, c'est ce qui est bio et local à autour de 80 km de notre territoire. En sachant qu'on a aussi des exceptions. Parce que il y a eu des extensions au conventionnement pour le riz de Camargue, pour une marque française de tofu, parce qu'il faut bien que les personnes qui sont véganes ou végétariennes puissent avoir des protéines non animales. Et puis aussi pour, par exemple, les plants potagers. Tout ça, toutes ces décisions par rapport aux critères de cotisation, par rapport au montant de l'allocation qui est de l'ordre de 100 euros par personne, et aussi les critères de conventionnement, ça a été décidé pour notre initiative au sein d'un conseil local de l'alimentation qu'on appelle CLA ou CLA. C'est 20 citoyens, citoyennes volontaires qu'on a essayé d'être au plus représentatif de notre territoire et qui se sont réunis pendant un an. Les 6 premiers mois, ils ont été formés par notre équipe et par des intervenants extérieurs à la réalité du système agroalimentaire, de l'aide alimentaire, mais aussi de la production sur nos territoires. Et après, pendant les 6 autres mois, ils ont pris des décisions, ils ont réfléchi ensemble et pris des décisions sur comment cotiser pour que les cotisations soient les plus justes possibles en fonction des moyens des personnes, le montant de l'allocation aussi, et après les critères de conventionnement. Donc ce qui a été retenu pour l'instant, c'est bio et local, mais on a toujours une équipe qui travaille pour l'évolution de ce conventionnement. Donc voilà, après, c'est comme ça qu'on a décidé aussi de faire fonctionner la démocratie alimentaire avec une instance plutôt représentative. Mais voilà, après, on a tout un côté aussi où on essaye de soutenir, d'accompagner d'autres initiatives près de chez nous ou un peu plus loin. Et voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas.
Merci beaucoup. Alors là, vous avez du coup entendu deux exemples d'organisations locales vers la SSA. En fait, il y a beaucoup d'autres choses qui peuvent se faire. Il peut y avoir des cantines, il peut y avoir des réseaux de ravitaillement. Il y a des choses qui se font aussi, différents réseaux en Bretagne, dans le Finistère, par exemple, qui font un espèce de mélange de tout ça. Je n'expliquerai pas à leur place comment ils font, parce que j'ai rien compris, mais c'était super. Et du coup, des caisses comme ça ou des expérimentations, on appelle ça du coup local de SSA vers la SSA, en fait, et pas de SSA. Toute la nuance tient dans le fait que c'est pas possible de faire de la SSA localement. Pourquoi c'est pas possible ? Parce qu'en fait, financièrement, il n'y a pas d'équilibre. Il peut pas y avoir d'équilibre sur une petite échelle. Cet équilibre, il peut se créer que à grande échelle. Du coup, ce qui va se passer localement doit nécessairement être relié au niveau interrégional. Et donc voilà. Et donc c'est pour ça que ça peut être intéressant de voir comment est-ce que on aboutit, comment est-ce qu'on peut aller vers l'organisation locale de quelque chose sur l'alimentation en fait, hein, en fin de compte, sans forcément parler de SSA, la démocratie alimentaire, juste pour le petit mot, c'est pas avoir accès à l'alimentation. C'est avoir le pouvoir sur l'organisation des systèmes alimentaires. Est-ce que on pourrait, avant d'arriver du coup sur les questions plus épineuses et plus précises peut-être des risques d'institutionnalisation paternaliste de ça, parce que si on mettait en place une SSA, ça veut dire qu'on institue quelque chose, on institutionnalise une organisation collective. Et comment est-ce qu'on pourrait faire en sorte d'arriver à une telle échelle d'organisation sans se faire encore voler par le patronat ou par l'État? Déjà, en fait, on va commencer par mettre les deux pieds dedans localement. Est-ce qu'il y a des personnes dans la salle qui s'organisent dans une activité ou une autre autour de l'alimentation, dans le chapiteau? Ouais. Est-ce que tu as envie d'en parler? Ah, tu veux pas. D'accord. Oui, c'était pas un sondage là. C'était juste pour demander s'il y avait des personnes qui avaient envie de dire si elle participe à l'organisation de quelque chose autour de l'alimentation. Ouais. Ouais. Il y a Mao qui t'apporte un micro.
Moi, je suis dans un supermarché coopératif. Enfin, je ne suis pas des plus actives, donc je me sens hyper légitime, mais où du coup, ce que ça fonctionne avec l'idée que les prix sont un peu moins chers, ou en tout cas, ils sont fixés. Enfin, il y a une petite marge qui est fixée de façon identique pour tous les produits. Et ça se fait en échange de travail. En fait, c'est 3 heures par mois. Et du coup, on peut avoir accès au supermarché avec ces produits qui sont... Enfin, du coup, il y a de tout. Il y a beaucoup de produits de très bonne qualité. Il y a aussi des tentatives d'être un peu plus inclusif en ayant, par exemple, des pâtes ou du café vraiment pas cher du tout. Mais voilà.
Bonjour. Moi, je suis maraîcher. Ouh, ça... Un, deux. Maraîcher dans une ferme collective donc à Saint-Lathier, qui est donc conventionnée dans le... dans la SSA, dans l'expérimentation SSA Bourg-Isère. Nous, on a des... Avant l'expérimentation, on a aussi mis en place des tarifs différenciés depuis 3 ans dans l'idée que bah, c'est cool de s'installer en paysannerie, c'est chouette d'être en collectif. Mais on n'a pas... Enfin, on a une envie collective, en tout cas, que nos produits soient accessibles au plus grand nombre. Et on sait bien que dans l'alimentation bio... Et dans la vente directe, souvent, bah, on va attirer potentiellement des personnes qui ont plutôt de l'argent, du temps, et moins des personnes précarisées.
Moi, j'ai une question. Quand tu parlais que l'équilibre n'était pas possible au niveau local, j'aimerais bien que tu précises de quel équilibre il s'agit, parce que du coup, je ne saisis pas.
Bah, c'est du coup l'équilibre financier. C'est-à-dire que quand on fonctionne, votre expérience à Diolfi l'a bien montré, sur par exemple la tarification, la triple tarification, c'est qu'en fait, avec une triple tarification, on présume que les riches vont donner un peu plus et que du coup, ça va compenser le un peu moins donné par les plus pauvres. Ben, ça fait que d'une part, en fait, on reste sur un système paternaliste qui tient sur la bonne volonté des bourgeois, des bourgeoises. Et d'autre part, à partir de ce moment-là, si... ces personnes décident, donc ces personnes qui ont de l'argent décident de se retirer pour une raison ou pour une autre, bah ça marche plus. Alors qu'en fait au niveau interrégional, c'est-à-dire toute la France, bah cette question-là elle se pose plus parce que tout le monde va cotiser et que il va y avoir des territoires riches, des territoires pauvres et que l'équilibre à cette échelle-là il se crée. Et de fait, c'est ce qui s'est passé en 46 avec la Sécu. Je rappelle d'ailleurs qu'au sortir de la guerre, le pays était complètement détruit. Qu'il y avait beaucoup, beaucoup de monde en moins, quand même, il y a eu la guerre, et que ça a marché direct. Sans impôts, quoi. Sans impôts et sans banque, quoi, sans emprunt. Et du coup, c'est pour ça. Enfin, ça répond à ta question.
Oui, mais ça me permet de rappeler que toutes nos initiatives, elles s'appellent vers une sécurité sociale de l'alimentation et pas des initiatives de SSA. Parce qu'en fait, au niveau local, de fait, on ne peut pas répondre aux critères d'universalité, puisque c'est sous la forme du volontariat. On ne peut pas obliger ni les précarisés, ni les bourgeois à rejoindre la caisse, en fait. Et c'est beaucoup plus difficile de motiver les bourgeois, comme vous pouvez l'imaginer. Il y a ce côté-là. Alors... Il y a aussi un autre côté par rapport à l'équilibre et qui est important dont on peut discuter ici avec le collectif Bourg-Isère, c'est la place des subventions. Parce que bon, bah, comme on n'est pas financé par l'État, comme on n'est pas au niveau d'une cotisation prise sur le salaire, pour faire en sorte que nos expérimentations se mettent en place, on a souvent recours à des subventions. Il y a beaucoup d'expérimentations qui subventionnent directement leur caisse, c'est-à-dire qu'elles demandent de l'argent à Carasso, à la Fondation de France ou à des communautés de communes qui mettent de l'argent dans la caisse. Ça permet en fait de faire baisser les cotisations et ça permet d'être moins dépendant de l'argent des bourgeois. Le truc, c'est que ça rend aussi les caisses dépendantes des subventions qui peuvent s'arrêter. Donc nous, on a fait le choix de ne pas subventionner notre caisse, de faire en sorte que la caisse s'équilibre juste par la solidarité entre les mangeurs et les mangeuses. Ça a ce côté-là que on ne peut faire rentrer les personnes qui cotisent moins que leur allocation que quand on a du bénéfice, en fait. C'est-à-dire quand on a fait rentrer dans la caisse des gens qui cotisent plus. Et donc, on a un système de tirage au sort. Donc, c'est toute une sorte de bricolage qu'on a fait pour veiller à ce que notre caisse soit autonome et en équilibre. Mais ça se fait au prix d'une certaine injustice aussi. Tu veux dire, vous voulez dire, vous, comment ça se passe pour vous ?
Ouais, moi, c'est...
Ah, c'est ça que j'avais oublié de dire tout à l'heure pour la traduction. C'est que quand vous prenez la parole ici, si vous pouvez vous lever, s'il vous plaît, pour que... toutes les personnes puissent bien identifier, notamment les personnes sourdes et malentendantes, puissent bien identifier d'où vient la parole.
Donc c'est Lionel, ça va comme ça ? Lionel, donc la caisse Bournisère, dont je fais partie aussi. Émilie a à peu près répondu à ce que je voulais préciser. C'était que c'est vrai que pour le, nous, on a fait le choix, comme à Dulphy, et on n'avait pas le choix en fait, parce qu'on n'avait aucune subvention. Donc on a décidé de se lancer sur une caisse avec donc, les gens qui cotisent. Les cotisations vont s'équilibrer d'elles-mêmes. Et en fait, à ma connaissance, il y a peu de caisses sur le territoire national là, qui fonctionnent comme ça. Et beaucoup de caisses compensent avec des subventions, ce qui, pour moi, rend la caisse fragile, parce que quand il n'y a plus de subventions, ben, tout s'arrête. Et donc, du coup, le côté... c'est vrai que la SSA, on ne peut pas dire c'est la SSA, parce que ce n'est pas universel. Sur notre territoire, la carte est derrière, là. Derrière vous, il y a à peu près 60 000 habitants. Donc, on n'a pas le pouvoir de dire, voilà, aujourd'hui, les 60 000 habitants, ils vont tous cotiser et on va faire quelque chose d'universel. Par contre, pour les personnes ici qui voudraient se lancer sur des projets de caisse, ben, voilà, on essaie de montrer avec notre petit niveau, avec nos 43 cotisants actuellement, que ben, c'est possible des citoyens avec des bouts de ficelle et leur volonté de se lancer sans avoir ni l'appui des collectivités ni de subventions. Alors après, maintenant, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas chercher à avoir des soutiens, parce qu'effectivement, pour pouvoir développer, on va avoir besoin de... on aimerait bien pouvoir rémunérer des personnes qui nous aident à développer tout ça. Et là, on aura besoin de... effectivement de trouver quelques financements. Mais la partie cotisation, nous, ça nous paraît important de montrer que ça s'équilibre. Et juste, je reviens un petit peu sur la remarque d'Émilie tout à l'heure. Nous, notre souci, c'est pas de trouver des gens qui mettent plus, parce qu'il y a plein de gens qui sont solidaires et qui sont prêts à mettre plus. Par contre, c'est d'aller vers les publics en grande précarité pour qui tous ces aspects-là, enfin, toute cette volonté de démocratie et tout, c'est pas si évident à aborder, ni pour juste se mettre autour d'une table ronde comme ça, c'est pas facile pour tout le monde. Merci.
Bonjour, moi je fais partie de la Caisse de l'alimentation de Lyon, et donc c'est encore un autre fonctionnement, mais ce qui est intéressant, c'est que nous, on s'était fixé comme objectif de toucher en priorité des personnes qui vivent la précarité. Et on est allé chercher des subventions pour ça. Donc c'est sûr qu'on ne recherche pas l'équilibre économique par la cotisation, mais parce qu'en fait, chaque initiative va chercher à démontrer des choses intéressantes pour le jour où il y a une SSA qui se met en place au niveau national. On ira capter l'intérêt de chacune des expérimentations. Et donc, le choix, il a été fait à Lyon de chercher ce public-là et vraiment de monter le projet avec un public en précarité, de subventionner le transfert monétaire, donc la caisse de l'alimentation et des salariés qui accompagnent cette caisse, et aussi de faire le choix d'un versement qui est conséquent, parce qu'on verse 150 euros par mois par personne, et c'est majoré par la composition du foyer. Donc quand il y a des enfants, quand il y a un autre adulte dans le foyer, ça peut monter jusqu'à 450 euros par mois. Par contre, ça a des limites. Aujourd'hui, on est à un an et demi d'expérimentation. On a en gros une visibilité jusqu'à la fin de l'année 26. Mais à partir de 27, on se pose ces questions-là de comment faire perdurer le projet, donc en le déployant à plus large que le 8e arrondissement, qui est un quartier de Lyon, en conventionnant beaucoup plus largement, en allant chercher plus de cotisants solidaires, et aussi en baissant les versements. Donc là, il y a déjà eu un passage à 125 et à partir de là, ce mois-ci, c'est 100 euros. Et l'idée, c'est pas de descendre plus bas et de et d'essayer de compenser. En fait, là, en gros, la cotisation des membres, elle représentait entre 28 et 30% du montant du portefeuille commun. Et on sait que pour continuer, il faudrait qu'on arrive à 60-70% pour avoir un peu de subvention publique, mais pas trop non plus. Voilà. Mais en tout cas, c'est intéressant de se dire qu'en fonction des modèles et de la ressource qu'on a, on ne va pas démontrer les mêmes choses. Et c'est ça que je voulais juste rajouter, c'est que du coup, on a aussi démontré que, bah, il faut un minimum de 150 euros pour avoir 5 euros par jour, ce qui est vraiment rien, pour accéder à une alimentation de qualité. Et qu'en dessous, bah, l'impact il est moindre aussi sur le budget des ménages. Que si on veut toucher un public en précarité, bah, forcément, l'équilibre, on ne le trouvera pas. Et ça, il faut s'alléger avec ça. C'est-à-dire que ce n'est pas une finalité en soi de trouver un équilibre sur ces caisses de l'alimentation. On ne peut pas répondre à tous les objectifs. Ouais. Voilà.
Merci.
Je pense que c'est... Il y a une grande différence dans comment on met en place ces expérimentations d'après nos historiques. Nous, le collectif citoyen à Dieulfi est né d'une population assez favorisée qui était sans doute vraiment consciente et dans la pensée d'aller vers les personnes les plus précarisées. Mais je pense qu'elle se disait que les personnes plus précarisées verraient l'intérêt de les rejoindre. Et au final, ce n'est pas si faux que ça. Mais il y avait surtout la solidarité aussi avec les producteurs et productrices locales, avec cette idée de favoriser les installations agricoles sur un petit territoire rural. Donc, on n'est pas tout à fait sur les mêmes histoires. Et au final, là où il y a vraiment... une carence, c'est dans l'implication de personnes précarisées. Alors, peut-être en lien aussi avec le collectif Bournisère, c'est-à-dire que j'ai travaillé auparavant dans un espace de vie sociale, et ce que je me rends compte que c'est que c'est pas facile en fait de travailler avec ce public-là. C'est-à-dire que si on ne l'implique pas dès le départ, eh bien quand on va venir vers eux, ça reste du paternalisme en fait, hein. Ça reste quand même le truc, venez, on a quelque chose pour vous, ça va être super, vous allez mieux manger. Sauf que les gens, ils n'ont pas forcément l'impression de mal manger. Des fois, ils voudraient juste manger tout court. Donc ils sont pas habitués forcément à des produits bio et locaux, surtout avec des matières premières non transformées. Donc il y a plein de choses en fait à mettre en place et qu'il faudrait mettre en place dès le départ dans les expérimentations. Mais bon, on subit toujours un peu l'historique en fait. Comment on se crée en tant que collectif et comment on évolue par la suite.
Du coup, j'en profite, je me dis qu'il y a un petit point à faire quand même, parce que là, on a un peu entendu parler de chiffres, de rapports aux subventions et tout ça, et comme en plus l'intitulé, c'est un petit peu la question de la crainte du paternalisme, de l'institutionnalisation de la SSA. Il y a une information que j'ai omis de donner au tout début de la présentation de c'est quoi la SSA. La SSA, c'est aussi, il y a une proposition qui est contenue dans le terme de SSA, c'est 150 euros par mois et par personne, pour manger des produits issus de... qu'on trouve dans des lieux ou pour des produits conventionnés. C'est tout un débat aussi. Est-ce qu'on doit conventionner les lieux ou est-ce qu'on conventionne les produits? Et du coup, ces 150 euros, en fait, ils impliquent aussi une certaine orientation politique parce que 150 euros par personne et par mois, donc mineur ou majeur, hein, c'est vraiment pour tout le monde. Déjà là de fait dans un contexte où on l'institutionnalise, ça veut dire quid des personnes exilées et ou sans pape, par ailleurs ça veut dire que on est sur du 10% de cotisation sur la valeur ajoutée, donc ça veut dire sur le total de notre brut. Dans l'idée de réseau salariat, pour parler à mon endroit, il ne s'agit pas de prendre sur le brut des travailleurs et des travailleuses, mais sur le brut de la valeur ajoutée créée par l'entreprise. Parce qu'en fait, pareil, hein, le distinguo entre ce qu'ils appellent les charges patronales, je n'ai pas envie de mettre de qualificatif, mais je ne suis vraiment pas loin, les charges patronales, c'est des cotisations patronales, en fait. Ils participent à la sécu. Comme tout le monde, ils appellent ça des charges. C'est encore pour nous enfoncer, quoi. Bref, les cotisations, du coup, les 10% de cotisations sur la valeur ajoutée, ces 10%-là nous amènent à, je ne sais plus combien, je crois que c'est genre 210 milliards, un truc comme ça. C'est genre un énorme pactole. Et que, en fait, en donnant 150 euros par personne et par jour pour manger, par mois pour manger, ben ça veut dire qu'en fait, on flèche, on oriente toutes les cotisations directement dans la consommation. Et du coup, ça veut dire qu'on ne peut pas investir, ça veut dire qu'on ne peut pas acheter de terre, ça veut dire qu'on ne peut pas racheter, si besoin, les emprunts bancaires pour éviter que les agriculteurs et agricultrices se suicident, parce que c'est ça qui se passe, hein. Les banques, elles font que les gens ils se suicident parce qu'ils ne peuvent pas rembourser les emprunts et que ça leur fait des quantités de travail, mais genre insoutenables, en fait. Et du coup, à Réseau Salarié, on remet en question la proposition des 150 euros parce qu'on pense que déjà, potentiellement, en fait, par exemple, quand on va se soigner, en fait, on n'a pas une somme max pour se soigner pour tel ou tel problème, en fait. Juste, on va se soigner et c'est pris en charge. Pourquoi est-ce que ça ne pourrait pas être la même chose si on met en place des cantines populaires de quartier, par exemple ? Juste, on met en place des cantines et tout le monde peut venir manger, c'est déjà payé, en fait, par les cotisations. Je ne sais pas ce que vous pensez de ça, vous.
Oui, c'est des...
Ah, il y a une question aussi là-bas. Ah oui, non, après, ouais. Vas-y, d'accord. Vas-y.
Oui, c'est des questions. Et surtout qu'il y a un peu une... Comment dire, une hégémonie un peu de tous les modèles de caisse. Enfin, chacun recopie celle d'avant, qui recopie celle d'avant, et sans forcément remettre en question ce qui se passe. Et il faut bien voir qu'il y a quand même une forte récupération quand même aussi du libéralisme, comme à chaque fois, en fait, qui arrive quand même à nous manger à certains endroits. D'autant plus lorsqu'on oublie un petit peu le socle justement de la SSA. Je pense que les stratégies, en fait, c'est ça, faut qu'on arrive à discuter aussi un peu de stratégie. Qu'est-ce qu'on cherche aussi à faire, tout en gardant, alors tu parles des cotations sociales, c'est de participation volontaire en réalité, mais ça peut aussi servir de l'investissement, par exemple. C'est-à-dire qu'entre, j'ai entendu, on a une stratégie de toucher des publics plus précaires, mais aussi plus généralement publics, mais aussi des organisations qui sont précarisées. L'aide alimentaire localement est au côté aussi terreaux locaux. Enfin, c'est une catastrophe, on a quasiment un an de retard, nous, sur des subventions, sur des crédits. Enfin, c'est extrêmement compliqué. Donc, la précarisation aussi des travailleurs et des travailleuses. Donc, bref, ça peut être un objectif en soi. Comme on l'a dit, nous, au début, la question du revenu paysan, même des droits paysans, parce que la précarité alimentaire est aussi fortement liée à la précarité aussi agricole. Et du coup, comment est-ce qu'on investit aussi dans l'appareil productif agricole ? C'est pas la même chose de créer des outils de transformation partagée, de... créer de la propriété collective en disant on rachète aussi des fermes. Enfin, en gros, on reprend vraiment la main sur les moyens de production. Et là, je parlais juste de la partie agriculture, mais comme je disais tout à l'heure, c'est pas énorme finalement. Enfin, quand on parle de, je crois, l'alimentation, c'est 20% du PIB, quelque chose comme ça. Donc, on peut difficilement socialiser tout ce PIB sans avoir l'ensemble des travailleurs et travailleuses de la chaîne de l'alimentation, et elle est énorme. Je crois que Carrefour, c'est le premier employeur en France, quasiment, quelque chose comme ça. Il y a 20 000 restaurants, enfin de restauration collective. Donc on a peu de cantinières ou de personnes qui font la mise en rayon dans nos caisses. Donc ça, c'est pas du tout pareil, le même objectif, quoi. Et c'est un peu de ça dont on doit aussi discuter, parce que ça prend un temps de malade de gérer aussi. Nous, on le fait tous bénévolement. Ne serait-ce que la partie administrative, on ne l'a pas trop dit, hein, mais si on prend un petit ticket, on va acheter dans un des points de vente, et puis derrière, à la fin du mois, on ramène ça dans une permanence. Ça peut être un centre social, c'est un peu tous les allées qu'on a sur le territoire, puis on se fait rembourser, quoi. Il y a vraiment quelqu'un qui fait les virements tous les mois aux 43 foyers. C'est un sacré boulot, donc on peut se dire, mais attends, combien de personnes on touche vraiment en faisant ça, et qu'est-ce qu'on transforme vraiment, quoi. Et on ne veut pas rester dans le camp des niches, quoi, des niches un peu d'alternatives. Ça, c'est un peu le... C'est l'atelier paysan qui nous l'avait bien appris, ça, dans leur bouquin au point de la terre aux machines. Il y a le champ des alternatives, il y a le champ un peu des transitions un peu institutionnelles dont tu parlais, les projets alimentaires territoriaux, les associations d'alimentaires. Il y a beaucoup de choses qui existent aujourd'hui dans lesquelles on peut s'inscrire. Et aussi, il y a toute la composante, les luttes locales, quoi. Quel rapport de force on arrive à mettre. Si tu ne fais pas peur à l'agro-industrie, en fait, on est encore dans la logique des AMAP, et c'est très bien, déjà, le soutien à l'agriculture paysanne, on s'organise entre personnes privilégiées, c'est chouette, mais à un moment, comment tu arrives à créer des alliances avec Et là, pour moi, c'est la vraie démocratie populaire, hein, avec derrière des classes populaires qui vont arriver derrière à faire basculer et affaiblir vraiment le modèle capitaliste, quoi. Et du coup, c'est un peu cette voie-là, je pense, auquel il faut réfléchir. Donc, il y a la caisse solidaire, et ça, c'est hyper important. Pas oublier, hein, je veux dire, nous, on connaît des caisses qui sont uniquement sous perfusion de subventions, et le jour où ça s'arrête, bah, vous avez 100 personnes qui, du jour au lendemain, n'ont plus de bon tirage. Enfin, qu'est-ce que tu fais de ça, quoi ? Donc, faut quand même tenir ce truc-là. Mais derrière, c'est quel projet politique aussi tu portes en se fédérant, nous, entre les caisses, en essayant vraiment de s'allier, du coup, avec la classe paysanne qui est en train de se faire exterminer par la FNSEA. Enfin, c'est vraiment comment on arrive derrière à mettre vraiment des clés de bras derrière au modèle qui nous domine, quoi.
FNSEA, ça va pour tout le monde ? Enfin, ça va.
Non, ça va pas.
Okay. Non, ouais. Syndicat des patrons agri, quoi. Voilà. Ouais.
Syndicat majoritaire.
Mais syndicat majoritaire.
Pas que des patrons, mais des travailleurs aussi.
Des salariés ?
Non, c'est que des exploitants. Ouais.
Oui, voilà, c'est ça. Oui, c'est comme la conf. Ouais. Oui, et c'est l'agro-industrie, du coup. Ça veut dire c'est l'agriculture conventionnelle. Conventionnelle, ça veut dire traitement chimique, etc. Enfin, je te laisse la parole, pardon.
Je ne sais plus trop pourquoi je voulais la prendre, mais enfin, en tout cas, ça m'a fait penser à Montpellier qui est en train de monter une caisse d'investissement aussi, en parallèle de la caisse de l'alimentation, et notamment pour investir en collectif sur des besoins, sur les fermes, des lieux qui sont conventionnés dans la caisse. Donc ça, c'est intéressant. Et c'est vrai que ça fait un moment cette idée, en tout cas, d'avoir un fonds d'investissement, mais qui soit partagé plus général dans l'ensemble des caisses, ça fait sens. Après, vu qu'on a déjà du mal à boucler les fins de mois sur les caisses d'alimentation, je ne sais pas comment arriver à récupérer d'autres argent. Mais du coup, je peux parler d'une initiative de lieux conventionnés à Lyon, donc qui ne sont pas des paysans, mais plutôt des épiceries ou magasins spécialisés, donc magasins Biocoop notamment, qui reverse une partie du chiffre d'affaires qui est généré par la caisse dans la caisse. Voilà, bon, ça, c'est des petites avancées quand même de contributeurs qui viennent aussi financer la caisse. Et on est allé chercher aussi les mutuelles, mutuelles de salariés, en disant, en fait, est-ce qu'il n'y a pas aussi quelque chose à faire auprès de ces acteurs de la santé qui aujourd'hui sont payés par les entreprises et les salariés pour pallier un risque de santé, quoi, comme la sécu, en fait. Hein. Et comment ils pourraient faire rentrer l'alimentation comme un élément de promotion de la santé, mais aussi d'éviter des coûts de santé supplémentaires, parce qu'en fait, c'est des acteurs qui sont complètement mobilisés sur les frais engendrés par une mauvaise alimentation aussi. Je veux dire, on n'a pas parlé des 12 milliards d'euros pour traiter le diabète, l'obésité et beaucoup d'autres maladies d'affection longue par an aujourd'hui qui sont financées par la Sécurité sociale. Et donc, ces acteurs-là, ils sont intéressés aussi à venir participer. Après, c'est comme tu dis, comment on ne se fait pas récupérer le projet, parce que derrière eux, ils ont une force de frappe immense, notamment pour, ce serait très facile d'aller conventionner des Naturalia, des Viclair, etc. Et on passerait complètement à côté du projet de soutien à l'agriculture, et notamment à l'agriculture paysanne. Mais n'empêche que il faut aussi, j'en sais rien s'il faut, mais en tout cas, c'est des acteurs qui ont une manne financière et qui pourraient mettre au pot, quoi, d'une manière ou d'une autre. Et derrière, c'est des salariés et des entreprises qui décident aussi de vers quelle mutuelle ils vont, quel risque ils veulent couvrir avec leur mutuelle, et pourquoi l'alimentation rentrerait pas là-dedans.
C'est juste pour faire un petit complément par rapport à ce que tu viens de dire. J'ai l'impression que c'est pas entendu par les personnes que notre première santé, en fait, c'est notre alimentation. Et voilà, j'avais envie de le préciser.
Alors, c'est pas ce que dit l'OMS. Selon l'OMS, l'alimentation, c'est 15% d'impact sur notre santé. Il y a une copine de Réseau Salaria, par ailleurs, qui a fait justement une conférence sur cette question-là, pour aboutir sur la question de la SSA. Pour dire que, mais en fait, l'obésité, c'est souvent, c'est pas la résultante de juste les gens ils mangent mal. C'est très souvent la résultante du fait qu'il y a d'autres maladies, en fait, qui viennent, par exemple, empêcher les sucres de s'assimiler, par exemple, des choses comme ça. Du coup, c'est pas, tu pourras toujours manger mieux, de bonne qualité et tout, mais en fait, ça n'a rien changé à ça, quoi. Donc, pour moi, cette question-là, elle reste vachement en débat. Après, je propose pas qu'on continue plus là-dedans. J'ai un peu l'impression qu'on est en train de discuter entre caisses. Et du coup, je sais pas ce que vous en pensez, je proposerais bien qu'on aborde un peu des questions de juste qu'est-ce qu'on peut faire ici et maintenant, qu'est-ce qui existe déjà autour de nous. On parle un peu de ça. Je voulais du coup lancer avec une idée qui est visible par toutes et tous ici présentes, c'est que les cantines de la restauration collective, très particulièrement dans les écoles, dans les collèges, dans les lycées, en fait, ces cantines-là sont des espaces de production, de production alimentaire, qui sont inemployés, donc sous-employés, en fait, les soirs, les mercredis, les week-ends, pendant les vacances. Vous voyez ce que je veux dire ? Il y a quelque chose à faire. Est-ce que vous avez envie de causer un peu des cantines et tout ? Est-ce que ça vous parle ? Je regarde tout le monde. Hein. Voilà.
Peut-être aussi réfléchir et commencer à agir sur l'approvisionnement même des cantines quand elles sont occupées. C'est-à-dire déjà quand elles nourrissent nos enfants, toutes les générations qui viennent. À mon avis, là, il y a du boulot pour nous aussi.
Hein. Je pourrais rajouter qu'il n'y a pas que les cantines. Hein. Les écoles, elles sont ouvertes que la journée. Les collèges, les lycées, etc. Et puis je rajouterai, ça c'est la maman en colère qui va rajouter ça, mais le reste du temps, quand il y a du monde dedans, nos enfants ils sont coincés dedans en fait. Hein. C'est des lieux de captivité, hein, les écoles. Donc ça serait bien d'amener de la démocratie là-dedans aussi et de faire en sorte que nos enfants soient libres d'apprendre et pas soumis à des pédagogies qui sont quand même culpabilisantes et violentes. Mais voilà, il y a beaucoup de choses à faire pour transformer ces lieux-là, notamment peut-être qu'ils pourraient, avec les cantiniers et les cantinières, faire à manger, aller dans les fermes. Voilà, il y a plein de choses, mais moi, ce que je voulais rajouter par rapport à ça aussi, c'est cette idée de réappropriation citoyenne qui est un peu ce dont tu parles, c'est-à-dire les collèges, les cantines, les lieux de production alimentaire des collectivités locales qui sont sous-employés, c'est des lieux qui appartiennent aux collectivités, donc qui appartiennent aux citoyens. Et à un moment donné, il y a cette idée de réappropriation citoyenne. J'aime bien citer Armel, qui est le directeur de la maison de quartier Saint-Nicolas, qui dit que de parler de démocratie alimentaire, de sécurité sociale de l'alimentation, de démocratie alimentaire et du droit à l'alimentation, c'est aussi une manière de créer un bien commun et de créer un lieu de lutte. C'est-à-dire qu'on mange tous... L'idée, c'est de manger trois fois par jour. Tout le monde ne mange pas trois fois par jour. Mais en tout cas, il faut manger pour vivre. Alors, on a un commun là-dedans, en fait. On a quelque chose que l'on partage et souvent qu'on partage avec plaisir. Donc, pourquoi pas se battre pour cette alimentation-là, pour cette production, du coup, et en faire un levier démocratique. C'est-à-dire, battons-nous pour la sécurité sociale de l'alimentation, mais ensuite pour la sécurité sociale du logement, de la culture, de tout ce dont on a besoin pour vivre, en fait. Mais l'alimentation, c'est déjà un premier pas parce qu'on mange, en fait.
Ça me fait rebondir ce que tu dis là au terme de citoyen. Quand on parle de SSA, nous, dans le collectif, il y a un truc qui a quand même été pas mal posé souvent et auquel on ne fait pas bien gaffe. Citoyen, qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui en France et dans le monde ? C'est « j'ai le droit de vote ». C'est ça, citoyen. Or, on a bien remarqué que ce n'est pas en votant qu'on avait un réel impact sur le cours des choses. Du coup, concernant l'alimentation, parce que c'est le cheval de Troie qu'on a décidé d'employer pour... péter le capital et l'autoritarisme, c'est de dire, en fait, est citoyen ou citoyenne, toute personne qui vit sur ce territoire et qui s'organise et qui participe à l'organisation de la cité sur ce territoire, quoi. Donc à partir de là, on peut imaginer beaucoup de choses, et notamment autour de l'idée qu'en fait, c'est le travail qui va conditionner ce qu'on pourrait remettre au goût du jour et qu'on appellerait notre citoyenneté. Je fais un léger pont avec la Commune de Paris de 1871, moment de réappropriation intense du pouvoir par les Parisiens et les Parisiennes. C'est à ce moment-là que le terme de citoyen est réapparu après la Révolution de 1848 et qui a relancé les gens. Du coup, je dis ça particulièrement dans un espace comme celui-ci parce qu'on n'aime pas bien le terme de citoyen, citoyenne pour la raison pour laquelle... parce que en fait, les 100 papes ne sont pas considérés comme des citoyens ou des citoyennes, que ça fait mal. Et du coup, en fait, ça nous ramène aussi à la question du travail. Et peut-être, Clément, tu aurais envie d'aborder un petit peu cette question-là ou pas ?
Je rajoute juste rapidement, parce que c'est quand même central à Terroloco, c'est aussi un vrai droit au travail quand on arrive. Enfin, quand on voit qu'il y a des fois, il faut 3 ou 4 ans pour arriver à avoir un droit au travail, c'est sûr que c'est le travail, mais il y a plein de gens qui vivent ici et qui aimeraient bien travailler et qui sont en attente de papier parce que bouge la preuve dans l'Isère, ça, voilà, c'est un mouvement que vous connaissez sans doute, ça. C'est 8 mois, 9 mois, rendez-vous à la PREF pour avoir un...
Mais le rapport entre la question de travail, ça, de toute façon, c'est quelque chose qu'on commence tout doucement à discuter dans le collectif. Parce que déjà, je vous dis, on est tous bénévoles. Donc ça pose cette question. Tu vois aussi, tout à l'heure, tu disais, Jerry, sur finalement, qu'est-ce que le travail là-dedans, bénévolat, entre des personnes qui sont effectivement à la retraite, certains qui le donnent parce que c'est un engagement militant, d'autres qui sont concernés parce que dans leurs organisations, bah, en fait, ils travaillent dans le secteur de l'alimentation. Donc... On a aussi des intérêts variés à s'impliquer dans ce genre de dynamique, quoi. Et puis la question derrière le travail, c'est effectivement des revenus, de qui peut être payé, qui est légitime. Nous, je sais que par exemple, à la base, donc, il y a vraiment une colonne vertébrale autour de la paysannerie. Et du coup, bah, la question du droit paysan, des revenus paysans, elle est centrale. Et nous, assez vite, on s'est dit comment on peut aussi ne pas prendre trop de temps à des personnes qui en ont quand même peu toute l'année. Et c'est encore pire dans certaines saisons, parce qu'elles ont une valeur qui est centrale dans le projet qu'on mène. On essaye de penser à un projet de fonds de transformation qui est un projet autour de l'alimentation, qui est un projet écologique, et aujourd'hui, qui sont porteurs de ça, bah, c'est justement les paysans et les paysannes. Et en plus, il y a un rapport vraiment au territoire, à la terre. On essaye de se dire, nous, on pense ce projet depuis les fermes et les réseaux de fermes. Et du coup, c'est ça qu'on a fait la petite enquête au bout des 6 mois d'expérimentation sur les intérêts que pouvaient avoir les différents publics. Les agris ne disaient pas « Ah, j'ai un intérêt économique à participer à cette expérimentation ». En général, ils ont quasiment tous un débouché, ils n'ont pas besoin de la caisse pour augmenter leurs revenus. Par contre, il y a effectivement un engagement politique très fort qui repose aussi, moi je trouve, sur... une des philosophies aussi de la Confédération paysanne, qui est de dire si on veut survivre, il faut aussi faire alliance avec d'autres personnes et d'autres orgas qui ne sont pas forcément dans la production agricole. Et c'est aussi un peu ce qu'on fait pour mener un projet vraiment de fond de révolution, quoi. Le seul truc que je voulais dire sur les institutions, c'est qu'on est toujours un peu un pied entre « Ah, on est un peu une alternative, un petit peu organisée façon lutte locale. » Et en même temps, on est un peu un pied dans des trucs plus institutionnels. Et quand tu parles, tu vois, de restauration collective, même vous, hein, Terroloco, chantier d'insertion, enfin, on est quand même très proche du secteur public. Et ça, c'est un des piliers qu'on discute quand même. Quand je dis public, c'est vraiment au sens de collectivité territoriale ici localement, mais ça peut être aussi le département qui peut financer. C'est votre cas avec la direction de l'emploi et du travail. Justement, on revient au travail. Ça pose un peu cette question de où est-ce qu'on est entre les deux. Et je pense que nous, ce qu'on fait, c'est qu'on recrée une institution, en fait, qui n'existait pas avant, qui cherche à affaiblir l'institution vraiment libérale et raciste et impérialiste qu'est l'État. Et en même temps, il y a une dépendance vitale à ces institutions contre lesquelles on essaie de lutter. Et c'est ce qui est hyper compliqué. Et c'est vraiment l'impuissance politique aujourd'hui dans laquelle on est. Et là, on recrée une institution quand même à côté, et en plus qui est géré démocratiquement, localement. C'est ça, pour moi, qui lui donne toute sa puissance. Et en même temps, il ne faut pas qu'on oublie quand même qu'il y a un déjà-là autour de la SSA. Et quand tu parles des cantines et de la restauration collective, c'est quand même ça. Les parents ne payent pas tous le même prix pour que leur enfant mange correctement, en général, à la cantine. Et du coup, comment on fait aussi pour s'appuyer sur ce déjà-là? Tout à l'heure, tu parlais des salariés aussi qui sont dans les cantines, majoritairement des femmes. Comment est-ce qu'on fait aussi pour, par les caisses et par les mécanismes de conventionnement, essayer de s'allier aussi avec cette restauration, soit les enfants, et c'est hyper intéressant justement de repartir des plus jeunes, ou aussi des salariés, du coup, via les mutuelles, on pourra aussi trouver d'autres connexions. Donc je pense qu'il ne faut pas oublier cette partie-là. Et il y a plein d'outils aussi de l'action publique. Il y a des régies municipales. Alors nous, on n'en a pas trop, je crois, sur notre territoire. Mais ça, c'est un super outil aujourd'hui pour racheter du foncier et installer des paysans et des paysannes. Et l'outil, il existe beaucoup de choses. Et je pense qu'il faut aussi qu'on essaie de s'appuyer sur cet existant.
Mais je voulais dire oui, et merci pour avoir repris par rapport à citoyens. Moi, quand je parle de citoyens, je parle vraiment de personnes qui est consciente de ses droits et consciente et dans la volonté d'en avoir plus. C'est cette idée d'émancipation, en fait, et d'aller vers plus de démocratie pour soi et pour les autres. Et je voulais revenir aussi sur quelque chose qui est de l'ordre de nos expérimentations. Elles sont vraiment fondées sur une implication bénévole. Et c'est souvent, nous, ça fait depuis le 2021, vous, depuis 3 ans, c'est des forces qui sont souvent peu reconnues, en tout cas pas par de l'argent, puisque on n'est pas considéré comme travailleur quand on est bénévole. Et donc, on s'épuise aussi. Et c'est difficile de recruter des forces vives souvent. Et avec la constitution et le renforcement des caisses alimentaires, on voit aussi ce phénomène-là, que ce n'est pas facile d'impliquer les cotisants et cotisantes qui ont une facilité à rester dans la consommation, en fait. Ils font un choix volontaire de rejoindre les caisses, mais pour la grande majorité d'entre eux et elles, c'est un acte suffisant. Alors que nous, on aurait besoin et envie, parce que c'est tout l'intérêt de faire vivre cette démocratie alimentaire, c'est de constituer des vrais collectifs citoyens larges et impliqués et engagés et de créer de vrais rapports de force sur nos territoires. Et on a du mal. On a du mal à valoriser ce travail-là qui correspond de fait plus à une contrainte. Et donc, ce n'est pas évident. Et on cherche en tout cas des pistes pour remettre de la joie et de l'envie et de sortir de cette facilité de la consommation qui est vraiment quelque chose dont je pense qu'on va avoir beaucoup, beaucoup de mal à dépasser dans le système capitaliste parce qu'ils nous ont vraiment endormis, en fait. À partir du moment qu'on a de quoi consommer, ça semble suffisant et on oublie ce rêve d'être ensemble, d'imaginer un autre avenir et de le rendre possible. Et ça, c'est ce qu'on a à faire. Voilà.
Oui, merci pour rebondir plutôt à tout ce que vous dites. Petit témoignage de maraîcher. Nous, on a une ferme collective, du coup, on a déjà l'occasion d'être en réseau avec des choses militantes. On accueille beaucoup de monde et c'est partie prenante de cette expérimentation. Ça nous apporte aussi un autre public. Je voulais parler du glanage notamment. On donne déjà bien sûr des légumes, des choses sur des événements militants, des choses comme ça, mais en vrai juste qu'il y a des personnes qui viennent nous aider à les récolter et qui s'occupent de la logistique pour partir, tout ça, c'est chouette et on fait aussi des ponts comme je disais avec des personnes qu'on connaît pas et ils viennent visiter la ferme, c'est chouette et pour nous c'est important parce qu'on n'a pas le temps tout le temps, enfin on est dans des réseaux etc, il y a des gens qui passent mais on n'a pas le temps d'aller voir des publics qu'on ne peut pas aller chercher. Et voilà, c'était juste ça. Merci.
Oui, moi, je voulais revenir sur cette question des cantines parce que je la trouve vraiment intéressante du point de vue des travailleurs. des travailleurs et des travailleuses. Moi, là, actuellement, je fais partie d'un espace d'ateliers partagés. On est une quinzaine et on mange ensemble, mais on fait à manger ensemble. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui dédient du temps, donc du temps qui n'est pas payé, hein, ils dédient du temps au collectif pour faire à manger pour toutes les personnes qui sont là. Et on partage ce repas en tenant compte aussi des spécificités alimentaires des gens, enfin, qui sont soit des questions de choix, mais aussi des questions non choisies d'intolérance, de maladie. Voilà. Et il y a quelques années, je bossais dans des grosses boîtes. Et puis, certes, on avait des cantines de travail où on pouvait aller manger, qui étaient du coup externalisées, qui permettaient d'engraisser des méga grosses boîtes qui font l'alimentation toute prête. Et en fait, on n'avait pas le choix. Moi, c'est une période où je ne mangeais pas de viande. En fait, j'ai perdu je ne sais pas combien de kilos parce qu'en fait, il n'y avait rien d'autre pour compléter. Et je pense qu'il pourrait y avoir aussi... du coup, il y a la partie agricole, mais la partie des gens qui ne travaillent pas dans l'agriculture, il pourrait aussi y avoir des formes pensées d'autogestion au sein des groupes de travail, pour voir comment on peut prendre en charge cette question-là et du coup de commencer aussi à réfléchir financièrement qu'est-ce qui est acceptable pour nous en termes alimentaires, de quoi on a besoin, et de considérer que la question de la reproduction de la force de travail, donc notre capacité à continuer à travailler l'après-midi ou le lendemain parce qu'on a mangé, fait partie de la question du travail et que pour l'instant elle est externalisée. Et qu'il y a, je trouve, une espèce d'absurdité aussi de considérer que chacun est responsable de soi-même et devrait amener sa nourriture. Ce qui fait qu'en fait, il y a 15 personnes qui vont allumer un four chez elles toutes seules pour se faire cuire une tarte. Il y aurait une espèce de cohérence aussi à continuer à mutualiser, comme ça se fait déjà dans les cantines scolaires, par exemple, mutualiser l'énergie qui est dépensée pour fabriquer la nourriture. Donc aussi de se demander... où est-ce qu'on a envie de trouver les approvisionnements ? Comment on se met en lien avec nos paysans et paysannes d'à côté ? Moi, j'ai l'impression qu'il y aurait une force là-dedans. Si elle est possible à faire dans des collectifs de travail parce qu'ils sont déjà auto-organisés, c'est chouette. Mais si c'est dans des entreprises, est-ce que ça vaut le coup aussi de porter des rapports de force à cet endroit-là ? Voilà.
J'ai une petite question. Merci beaucoup pour ton intervention. Pas sûr d'avoir pigé du coup ce que tu voulais dire par t'as dit collectif de travail, c'est ça? Enfin non, t'as dit groupe de travail.
Ouais.
Et après t'as parlé de l'entreprise et du coup je croyais au début que tu disais groupe de travail genre de travailleurs et de travailleuses, mais en fait c'était autre chose, c'était dans un autre contexte, dans un autre cadre que celui du travail capitaliste, que tu parlais des groupes de travail où vous faites de la cantine et tout ça.
Moi je parlais d'un espace dans lequel on a chaque personne a son activité. Auto-entrepreneur, on va dire, grosso modo, pour tout le monde. Et donc, on choisit de partager un espace ensemble, mais aussi de dédier du temps au fonctionnement collectif, y compris sur le ménage, y compris voilà, tout ce qui relève de l'auto-organisation pour de vrai et pas de l'externalisation en se disant que quelqu'un nettoiera derrière nous ou quelqu'un nous fera manger. Mais ça, justement, on a la liberté de le faire parce qu'on est à notre compte et qu'on choisit qu'il y a une partie de notre temps au travail qui va être bénévole. Et qu'en en fait, on peut dire que dans des entreprises, en fait, c'est nécessaire qu'il y ait aussi du temps qui soit dédié à ce que les gens puissent manger, tout comme les gens puissent se reposer, tout comme les espaces soient propres. Et que ça ne vienne pas enrichir d'autres grosses boîtes qui exploitent très clairement des gens.
Et en fait, là, tu es même en train déjà... de décrire un potentiel début d'organisation vers la SSA, en fait. De l'auto-organisation collective. Hein, genre, peut-être il y a un truc à réfléchir avec les personnes avec lesquelles vous avez déjà lancé cette idée de vous auto-organiser sur l'alimentation et du coup, effectivement, de pousser le truc sur la question du stockage, sur la question de la provenance, du coup, de la distribution, etc., etc., quoi. C'est trop bien. Pour une fois que l'auto-entrepreneuriat apporte quelque chose de positif. Et par ailleurs, on peut aussi rappeler que c'est quand même bizarre qu'on ne soit pas payé quand on travaille pendant qu'on mange. Comme tu l'as dit très justement, on ne va pas travailler si on ne mange pas, en fait. Pourquoi on n'est pas payé à ce moment-là? Et d'ailleurs, pourquoi on n'est pas payé pendant les grèves? Marrant, ça. C'est du travail aussi. Dormir, ça, on a un peu avec les vacances. Ça, c'était une lutte sociale, ça. Du coup, j'allais proposer, pour rester sur cette histoire des cantines et pour aller peut-être un tout petit peu plus loin sur la question qui est souvent mise en avant Quand on parle de SSA, c'est une alimentation choisie et de qualité. Moi, ces deux termes-là sont des termes qui me posent vraiment fortement question, parce que en fait, ça éloigne quand même pas mal de gens. Et je vais donner un exemple très concret qui est celui de l'organisation de l'autogestion. En fait, c'est pas de l'auto-organisation, mais c'est vraiment de l'autogestion des cantines de quartier à Montreuil, en Seine-Saint-Denis, où il y a des groupes dans des squats. J'arrive plus à me remettre le nom en tête là, qui font des cantines tous les jours. C'est quelques dizaines de personnes, principalement des femmes, qui font genre 2000 repas par jour dans des squats. Les assiettes sont à 3 balles. C'est énorme. Genre, t'as plus faim à la fin. Mais c'est pas du tout bio. C'est pas du tout paysan. Genre, ça a le droit d'être dans la SSA ou pas? Pourquoi est-ce que ces personnes qui s'organisent, qui permettent à d'autres gens qui n'ont pas de thunes de bien manger suffisamment et tout, pourraient pas être dans la SSA parce que c'est pas des produits qui sont issus de l'agriculture paysanne et parce que c'est pas des bons produits, quoi?
J'ai un autre exemple. Super. Qu'on m'avait dit la semaine dernière, au 6 mois de la caisse, il y avait le collectif de Grenoble, de la SSA de Grenoble. Et il y a une des deux personnes qui étaient là qui me disait qu'il avait fallu qu'elle se batte pour que soit conventionné un petit restaurant de quartier qui est pas bio, mais qui est dans un quartier populaire avec des gens qui essayent vraiment de travailler sur des prix hyper abordables, que c'est vraiment un lieu de convivialité avec qui valorise la cuisine des personnes qui habitent ce quartier-là. Et pareil, quoi, elle disait, en fait, à un moment donné, il faut dépasser peut-être l'idée de la qualité pour aller vraiment, pour valoriser d'autres choses, parce qu'on ne peut pas tout cumuler. Donc, ce qui a été décidé par rapport au conventionnement, c'était qu'il y a un engagement de ce lieu pour aller petit à petit vers des productions plus locales, en tout cas déjà plus locales. Mais voilà, il y a une souplesse à avoir, en tout cas. Enfin, moi, c'est ce que je prône dans notre collectif, c'est qu'il y a aussi d'autres critères et il faut que ce soit inclusif.
C'est ça, si on veut que ce soit populaire, ça y est, c'est OK?
Ouais,
trop bien.
Du coup, moi, pendant longtemps, j'ai été berger. Du coup, je parle au niveau de la question de l'entrepreneuriat sur les questions de la bouffe. Et du coup, je trouve ça un aspect qui est hyper intéressant parce que du coup, on est d'astreinte dans des endroits hyper isolés. Je pense qu'il y a beaucoup de bergers qui ont du mal à lâcher les brebis, donc qui prennent énormément de temps sur leur temps personnel. Et du coup, je pense que ça arrive à beaucoup de bergers, mais pour moi, ça m'est arrivé très souvent de rentrer à 22h30 et d'être trop fatigué pour faire à manger et tout. Et il y a aussi tout l'aspect où on ne voit pas les fruits, les légumes de l'été, parce que du coup, nous, on monte, il est mi-juin, et on redescend, il est mi-octobre. Et du coup, dans tout ça, il y avait un moment donné, il y a plusieurs groupes, mais il y a un groupe dans lequel j'ai participé, qui se sont montés pour essayer de fonctionner avec des fermes pour avoir des produits de transfo, des produits de conservation et tout ça. Et voilà, et ce qui fait que... Parce que mine de rien, si on veut avoir du frais, ça veut dire qu'il faut sortir les brebis hyper tôt le matin, descendre. Et des fois, d'avoir des transfos qu'on faisait avec des paysans, c'était... Du coup, je ne sais pas dans quel cadre ça peut rentrer. Non, je ne sais pas ce que je veux en dire, je voulais juste partager ça. Voilà.
C'est trop bien, merci beaucoup.
Moi, je trouve que ce que ça montre, en fait, dans les différents témoignages par rapport à ça, c'est que l'alimentation, ce n'est pas que de la consommation individuelle, en fait. Et il pourrait y avoir... C'est politique. C'est politique par rapport à, oui, la production, l'origine, qu'est-ce qu'il y a derrière. Mais c'est aussi se nourrir, nourrir les autres. Il y a eu aussi une inégalité dans le fait où, quand on travaille énormément pour des choses qui sont précieuses et urgentes, comme garder des animaux d'élevage en estive, eh bien, quelque part, ça paraîtrait normal que quelqu'un amène à manger, qu'il y ait des temps de restauration commune, qu'il y ait quelque chose qui soit pensé. Et en fait, l'alimentation, c'est pensé comme quelque chose, une action complètement individuelle. Et en fait... Ça permet de se déculpabiliser sociétalement du fait que certains n'ont pas le temps de manger, n'ont pas les moyens financiers de manger et n'ont pas les moyens matériels de manger parce que les personnes qui vivent à la rue, elles n'ont pas enfin, ou des personnes qui vivent sans matériel pour ne serait-ce que de se faire réchauffer des choses. Il y a des personnes qui sont dans la capacité totale de cuisiner, de transformer quelque chose. Et je trouve que ce genre de témoignage, en fait, c'est vraiment hyper important parce que ça nous montre la très grande variété des situations où les gens ne sont pas libres de manger. Et du coup, leur parler du droit à une alimentation digne et de qualité, de pouvoir manger, d'avoir un temps pour manger. Moi, je pense, ne serait-ce qu'aux mamans avec des bébés. En fait, on n'a pas le temps d'aller aux toilettes. Comment voulez-vous qu'on ait le temps de préparer à manger et de manger, quoi ? Et pourtant, il faut nourrir un être humain tout neuf. Donc, il y a quand même plein de choses où c'est intime. Se nourrir, c'est vraiment très, très intime. Et peut-être qu'il faut le penser en le transformant, de ne pas se dire « se nourrir », mais « nous nourrir », »,« nourrir les autres ». Ce n'est pas une responsabilité individuelle, c'est une responsabilité collective. Et on a vraiment donc à imaginer cette production aussi, mais au jour le jour, est-ce que ma voisine qui a un tout petit bébé, elle se nourrit correctement. Moi, je suis aide à domicile. Je travaille chez une dame qui a un bébé de 3 mois. Elle s'est rendue compte qu'elle avait moins de lait parce qu'elle n'avait pas le temps de boire dans la journée. Boire un verre d'eau, c'est quand même fou. Donc, à un moment donné, soucions-nous les uns des autres, en fait, et ayons conscience de ce que nous vivons les uns les autres.
Oui, c'était par rapport à qu'est-ce qu'on utilise comme produit, qu'est-ce qu'on met à disposition dans le cadre d'une sécurité sociale de l'alimentation. Et moi, c'est vrai que c'est vraiment une partie que je trouve très difficile à régler comme problème, parce que utiliser quand même des produits qui viennent de la grande distribution, ça veut dire utiliser des produits qui font que les paysans, paysannes se font exploiter et n'arrivent pas à vivre de leur métier. Donc en fait, c'est, comme on disait, Carrefour est un gros employeur de personnes qui travaillent, qui produisent de l'alimentation. Et du coup, ça veut dire nourrir, engraisser un système capitaliste, etc., qui oppresse d'autres personnes dont on souhaiterait qu'elles puissent vivre de leur travail de paysan, paysanne et tout ça. Du coup, c'est sûr que moi, je trouve que c'est une grosse question, quoi. Je ne sais pas comment la résoudre, mais pour moi, c'est pour ça que ça pose problème. C'est parce que ça entretient un système capitaliste.
Et juste en complément, d'autant plus que on n'a pas tous le même niveau d'info. Tu vois, j'ai l'impression qu'à chaque fois qu'il y a une loi qui passe, les lois diplômes, machin, en fait, on apprend à quel point on est justement en train de défoncer notre santé, de celles travailleuses. Et en fait, nous, dans les petits cycles de formation qu'on faisait, et c'était méga court, l'idée, c'était de se dire comment est-ce qu'on peut quand même déjà un peu de savoir de quoi on parle, autant sur ce qui est produit que la santé de ceux qui produisent. Et en fonction de ça, de cette connaissance de cause, dire « Ok, qu'est-ce que localement on peut faire ?» Mais ce que tu décris, c'est des tensions énormes qu'il y a entre la production et les producteurs, quoi. Et ça revient un peu à ce que j'ai dit tout à l'heure sur les stratégies qu'on mène. Et il y a même une autre tension, quoi. C'est l'accessibilité vraiment géographique qu'il y a et la qualité. Donc nous, c'est un territoire rural. On a conventionné quand même beaucoup de points de vente, mais c'est loin de suffire pour qu'une personne qui n'a pas de voiture... Et d'ailleurs, il y en a une qui avait dit ce slogan « pas de bio, pas d'auto, pas de bio ». Pour moi, c'est assez clair. Donc en fait, si on se dit qu'on veut toucher tout le monde, faut qu'on invente ou qu'en tout cas qu'on soutienne des dispositifs existants qui permettent justement d'accéder à ça physiquement. Et l'accès, il est pas que physique, hein, c'est aussi culturel, social, on en a déjà beaucoup discuté. Et ça, c'est une énorme barrière. Vous, hétérolocaux, vous l'avez au quotidien avec... vous, les personnes qui sont en parcours chez en exil, qui doivent venir de Grenoble, enfin, il y a tout ce truc-là, si tu veux en parler après. Mais la mobilité, c'est un gros sujet. Du coup, on a quand même cette tension-là de qu'est-ce qu'on conventionne. Après, s'il y a un truc qui est sûr, c'est quand même de se dire qu'on ne veut pas tomber dans le piège du produit, de se dire, parce que si on rentre dans la logique un peu la grande de la consommation, de dire finalement, c'est au consommateur de décider de ce qui est bon ou pas bon. Et je pense qu'en plus, on reproduit potentiellement des dominations. On en avait parlé au tout début, hein, mais ce truc-là, en plus, qui dans l'histoire aussi de la gauche et des politiques sociales, finalement, c'est les sachants qui vont essayer de transmettre la bonne idée et ce qu'il faut faire, plutôt que de dire, finalement, pourquoi on ne pourrait pas laisser j'ai mangé beaucoup plus de viande ou tel produit. Donc du coup, on ne veut pas rentrer dans ce cas de redonner le pouvoir aux personnes qui mangent, de dire exactement ce qu'ils veulent, quoi. Sinon, on crée un syndicat de la consommation, quoi. Et en fait, il existe déjà, d'ailleurs. Donc c'est vraiment se dire, ce qu'on veut, c'est avant tout reprendre la main ou permettre à ceux qui produisent vraiment de décider de ce qu'ils produisent. Parce que derrière, forcément, en fait, ils vont prendre les bonnes décisions. Enfin, genre, on n'est pas plus malin que quoi. Et ça, c'est important, je pense, de le garder en tête. Ouais, juste quand même pour dire, il y a quand même des caisses, hein, qui font du remboursement de certains produits, parfois même une partie des produits. Enfin, voilà, il y a plein de trucs qui sont expérimentés, quoi.
Moi, je voulais parler de l'inclusivité que tu parlais tout à l'heure, qui est un peu peut-être actuellement le petit caillou dans la chaussure de la SSA. Et ce n'est pas évident. Bah, voilà, je vais reprendre un peu le discours de la conf. On a besoin de 1 million de paysans, mais pas que, en fait. On a besoin de cantinières, cantiniers, on a besoin de jardiniers, jardinières, on a besoin de vous tous, on a besoin de monde. Et voilà, c'est important de relier ces mondes. Et si on veut changer le rapport de force, qui est actuellement, l'agriculture bio en France, c'est 10%, quoi, enfin même moins. Donc on a aussi besoin d'aller faire des récups dans les grandes surfaces, pour des événements de militants, pour faire de la thune. On a besoin de tout ça. Et pour changer ce rapport de force, on a besoin de vous en campagne.
Ça me fait penser à un élément d'information qui vaut son pesant. C'est que, en fait, au sortir de la guerre, du coup, jusque début des années 50, le temps moyen d'une grève, c'était 15 jours. Sur l'ensemble des grèves sur le territoire national, c'était 15 jours de grève. Pourquoi ? Pourquoi c'était autant ? Parce qu'aujourd'hui, en fait, c'est deux jours. Je crois que c'est ça aujourd'hui, c'est 2 jours. Pourquoi ? Parce que il y avait beaucoup moins d'urbanisation de tout le territoire. Il y avait une beaucoup plus grande porosité entre les ouvriers, ouvrières et le monde rural. Et que beaucoup plus de personnes se faisaient à manger. Et aujourd'hui, un des trucs qu'on voit, qui est très clair aussi dans le discours du copain de la conf et dans le discours de la conf, c'est qu'il y a besoin de monde dans les champs globalement, quoi. En fait, si on veut pouvoir s'indépendantiser du système agro-industriel, il faut plus de monde à bosser dans ce secteur-là, quoi, dans les secteurs de l'alimentation en général. En fait, du coup, ça me fait penser à ce truc que, l'endroit principal de la prise de pouvoir de l'agro-industrie, c'est la distribution. C'est là qu'on va décider de tout. C'est là qu'on va décider de comment vont travailler les travailleurs, les agriculteuristes, de comment est-ce qu'elles seront rémunérées. C'est là qu'on va du coup décider de c'est quoi les marges qu'on va se faire. Genre, juste pour vous donner une idée, sur une baguette de pain, alors c'est plus 1 euro, mais mettons, c'est plus, sinon c'est ça, c'est 1 euro. En fait, sur 1 euro, il y a 8% qui va à la paysanne ou au paysan qui a fait le pain. Voilà, qui a fait la farine. Donc en boulangerie, là, une personne qui est considérée comme paysanne, enfin un boulanger paysan, boulangère paysanne, c'est la personne qui va faire tout du début. Elle va faire pousser le blé, elle va le moudre, elle va ensuite faire le pain. Et du coup, c'est 8% seulement de l'euro qui est rendu aux paysans et aux paysannes. Et nous, en fait, moi, ce que je vois en tout cas, ce qu'on se dit à Réseau Salariat, c'est que l'endroit principal de notre reprise de pouvoir sur l'alimentation, c'est les cantines. Pourquoi ? Parce qu'en fait, sur les cantines, il y a absolument tout. Il y a tous les enjeux de l'alimentation. Il y a l'approvisionnement, il y a la transformation, il y a la production, du coup, pour parler de la production, de faire pousser des légumes et tout ça. Ensuite, il y a le service. Et surtout, c'est un espace de socialisation, de ouf. C'est un espace où on va se rencontrer, c'est un espace où il va y avoir de la vie, c'est un espace où on va pouvoir rencontrer plein d'autres gens, parce que si c'est un espace où on mange, en fait, c'est le truc. C'est pourquoi on parle des mangeurs et des mangeuses, parce qu'en fait, juste pour vivre, t'as besoin de manger, en fait. Donc ça concerne absolument tout le monde. Donc c'est un endroit où socialement tu vas pouvoir rencontrer possiblement tout le monde, comme à l'hosto, en fait. À l'hosto, on va, en fait, j'ai jamais rencontré un bourge qui a dit hors de question que je me fasse payer mes soins par la sécu. La cantine, c'est la même, en fait. Si on a une bouffe collective qui est gratos à la cantine, en fait, on va rencontrer de fait plein de gens. Et ça va nous sortir de nos réseaux fermés dans lesquels veulent nous enfermer Facebook et tout ça. Vous voyez comment je fais le lien. Bref. Tu as le micro, peut-être, tu veux prendre la parole ?
Ah oui.
Super.
Oui. Pardon, c'est un petit peu hors sujet par rapport aux dernières interventions, mais je me disais que j'avais quand même envie de revenir, enfin de nommer clairement un point de tension qu'on a commencé à évoquer tout à l'heure sur alimentation et santé. C'est qu'en fait, j'ai l'impression qu'il y a une ligne de crête de discours un peu à tenir sur la nécessité, oui, d'avoir une alimentation qui soit la plus qualitative possible parce que ça a effectivement un réel impact sur notre santé, mais que par contre, on se retrouve face à des discours étatiques et systémiques qui responsabilisent individuellement les personnes en disant, bah voilà, en fait, t'es en mauvaise santé parce que tu manges mal et que tu fais pas assez de sport et que je sais pas quoi. Et en fait, comme tu l'as redit tout à l'heure, c'est une petite partie de la réalité. Mais en fait, considérer que c'est une problématique individuelle, c'est passer sous silence toutes les conditions environnementales. Donc qui vont être et nos lieux d'habitat, mais aussi nos lieux de travail, toutes les personnes qui travaillent dans l'industrie, dans le bâtiment, enfin voilà, il y en a plein de taf qui sont très usants, toutes les questions génétiques, tout le fait que notre système de santé se casse la gueule aussi, et de plus en plus en difficulté de prendre en charge certaines maladies. Et du coup, j'ai l'impression que cette ligne de ce point de tension là, il existe et il affleure à plein de moments dans les discours aussi, et que j'ai l'impression que, enfin voilà, qu'un truc intéressant à jouer à cet endroit-là, quoi. À la fois de dire on veut prendre en charge cet aspect-là, et en même temps on nous laissera pas croire que c'est la seule problématique, et de renvoyer en miroir vers ces questions environnementales et de travail.
Moi je trouve qu'on abuse, on mange beaucoup trop de cadmium en fait. Vraiment, beaucoup trop de cadmium dans nos assiettes, on abuse beaucoup, quoi. Moi, tu parles beaucoup de cantine et je suis super frustrée parce que je suis là. Nous, on a un projet de cantine. Enfin, on a une réalisation de cantine. Alors, je vais mettre Lucie super mal à l'aise. Mais Lucie, je vais tenir la caméra et tu vas venir parler des cantines.
Que dire ? Eh ben, à Duelfi, depuis un an maintenant, on a mis en place une... Enfin, on a un petit groupe à organiser des cantines de temps en temps. On a testé plusieurs trucs, soit de la récup, soit là en ce moment. C'est des cantines prix libre. Et du coup, au final, on réussit à récupérer suffisamment pour acheter des produits, plutôt des produits qui sont conventionnés par notre caisse Alim, donc plutôt des produits bio et locaux pour la plupart. C'est une cantine participative, voilà. Je ne sais pas trop quoi dire du tout sur cette cantine. La cantine des Louches. Et l'idée, c'est aussi de faire du lien avec d'autres collectifs. Donc, on était présents en septembre avec Blocontou. Et du coup, voilà aussi de comment on utilise la cantine et on travaille en autonomie pour essayer de soutenir les mouvements sociaux et faire du lien aussi sur cette question de avec qui on a envie de tisser des alliances dans nos collectifs qui travaillent sur ces questions de SSA, quoi.
Je crois qu'il y a quelqu'un qui pourrait nous parler de la cantine de Terreaux Locaux. Allez, viens. Allez. Donc, tous les jeudis, même principe.
Tiens. Ben, pareil, du coup, plus dans la région autour de Saint-Marcelin, vers Vinay. À Terreaux Locaux, moi, je fais aussi partie de Terreaux Locaux, de l'association. Et on a une cantine tous les jeudis, donc le jeudi midi. Et c'est à la fois la cuisine participative, avec des gens qui peuvent venir participer à faire la cuisine, faire la cantine. On invite aussi parfois des groupes, des étudiants, des jeunes du territoire, des personnes des IME. Enfin voilà, c'est assez varié pour faire la cuisine, et aussi des salariés en insertion donc qui peuvent aider à venir faire la cuisine. Et ensuite, ben voilà, il y a la cantine collective où tout le monde peut venir. Pareil, c'est à prix libre, et donc c'est aussi un espace de sociabilisation qui a été instauré vraiment avant que j'arrive. Hein. Hélène pourrait aussi très bien en parler. c'est pour penser au-delà de la production maraîchère. Donc, vu qu'on est un chantier d'insertion, entre autres agricole, l'alimentation et comment l'alimentation et le fait de manger est un espace de sociabilité. Donc, venez le jeudi midi à Terreaux Locaux.
Il vaut mieux s'inscrire un peu avant, parce que si vous venez à 200, qu'on le sache avant, ce serait bien. Oui, sinon, une chose importante aussi qu'on a réalisée, c'est on a du matériel pour faire de la cuisine de rue. Donc, on a entre autres l'année dernière fait des ateliers cuisine-cantine au Resto du Cœur à Saint-Marcelin. On en a fait au CCAS de Vinay aussi, on en a fait sur Tulin. Et comme on le dit tous et comme on le pense tous, c'est avant tout le lien. Hormis des choses très importantes, c'est utiliser des topinambours ou des rutabagas l'hiver quand on n'en a jamais mangé et qu'on ne sait pas ce que c'est. Donc c'est aussi transmettre des recettes, transmettre des savoir-faire entre nous, entre participants et je veux dire ceux qui organisent la cuisine. Voilà, en termes de cantine.
Le débat touche à sa fin. On va avoir un stand, on va mettre la banderole derrière, là, du coup, à côté des camarades du Rojava. Et vous y trouverez une BD qui explique un peu ce que c'est le projet de SSA, qui est assez courte, qui est hyper digeste. Et puis, du coup, je crois qu'elle est à prix libre. Encore des patates. Ouais. Pour finir là-dessus, encore des patates, c'est vrai qu'on n'a pas finalement plus à aborder au final la question de l'institutionnalisation, mais pour donner un exemple très concret, dans le déjà là institutionnaliste, paternaliste à vomir qu'il voudrait récupérer la SSA, il y a les systèmes d'aide alimentaire. Les systèmes d'aide alimentaire aujourd'hui, ils sont organisés de telle manière qu'il y a toute une manne financière qui fait que l'agriculture, enfin une grosse partie de l'agriculture conventionnelle est produite uniquement pour fournir en produits dans l'aide alimentaire. Donc les trucs qui sont genre les Restos du Cœur ou les banques alimentaires et tout ça, il y a une partie des produits qui est faite uniquement pour ça. Du coup, on voit bien qu'en fait, au final, l'aide alimentaire, c'est aussi un gros business, quoi. Donc si on reste toujours sur le truc de faut nourrir les pauvres, on va avoir du mal à s'en sortir vraiment, quoi. Parce que là, on va se faire tacler là-dessus, quoi. Et ça en parle très bien, cette BD. Voilà, je vous invite à la choper. Et puis, après, on est toujours dispo pour causer de plein de trucs. Parce qu'évidemment, il y a beaucoup, beaucoup de sujets qu'on n'a pas abordés. J'espère que ce débat était digeste pour vous aussi, que ça vous a intéressé. Et puis, on s'en recause. Merci beaucoup à toutes et à tous.
Merci.